bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés dans ce début de mois de juin. C'est la dernière conférence de l'année. C'est une conférence qui va être technique, un petit peu, pas trop, je l'espère, mais qui va mettre en focal un point absolument central, je dirais, du développement technologique et du développement militaire, même, on peut dire, dans les années à venir, c'est-à-dire qu'on va parler de l'espace extra.
Recording in progress.
Oula, c'est bien.
C'est bon ?
Ça enregistre.
Voilà. L'extra-atmosphérique, alors, on voit bien que depuis la course à la Lune, les choses s'étaient un petit peu tassées, ça coûtait cher, c'était plus trop à la mode. On a lancé des satellites, bien entendu, il y a eu des gros progrès de ce côté-là, mais on ne parlait pas trop d'espace militaire. Or, depuis quelque temps, on voit bien à la faveur, je dirais, des crises qui se développent actuellement, que le problème de la militarisation de l'espace revient à grands pas. Et donc, ça devient un enjeu absolument considérable. Est-ce que c'est la prochaine dimension, après avoir conquis le monde au 19e siècle ? Alors, fin du 19e, il y avait encore des espaces qu'on ne connaissait pas, bien entendu, sur Terre. Maintenant, on a l'impression qu'un certain nombre de pays veulent se lancer dans la conquête d'autres choses. Et donc, on voit bien que les Chinois, je crois, ont ramassé des bouts d'échantillons lunaires sur la face cachée de la Lune. On voit qu'il y a des satellites qui pourraient être des satellites espions ou des satellites armés qui pourraient permettre de détruire d'autres satellites. On voit même la Corée du Nord lancer ses propres satellites, dont on ne sait pas trop ce qu'ils valent. Mais en attendant, on voit même que des pays, je dirais, qui sont pas de très haut niveau technologique quand tu veux faire. L'Inde, bien entendu, se met de la partie avec son développement technologique. Donc, la véritable question aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain ? Comment on peut imaginer l'avenir dans l'espace extra-atmosphérique ? Alors, va-t-on assister à une lutte ? Va-t-on assister à une coopération ? Vraisemblablement les deux. À quoi peut ressembler l'espace extra-atmosphérique demain matin? Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir poser la question. Tout d'abord à Béatrice Hainaut. Béatrice Hainaut, qui est chercheur à l'IRSEM, capitaine dans l'armée de l'air et de l'espace, puisque justement, depuis peu maintenant, ça fait 4-5 ans, hein, je pense. Oui, c'est ça. L'armée de l'air s'appelle armée de l'air et de l'espace. Et ce n'est pas la seule armée au monde. Maintenant, toutes les armées de l'air, maintenant, s'appellent l'armée de l'air et de l'espace, ce qui prouve que l'espace a intégré véritablement les préoccupations des militaires. Donc, chercheuse à l'IRSEM, vous avez fait notamment un fascicule très, très intéressant, dernièrement, que j'avais récupéré en allant à l'IRSEM, qui s'appelle...
Sur les normes de comportement dans l'espace.
Voilà, c'est... Voilà. Dont je vous parlerai sans doute peut-être un petit peu. Oui,
pourquoi pas.
Voilà.
Il y a
tellement de choses à dire. Non. Ensuite, Xavier Tittelmann, qui est consultant aéronautique et défense, que l'on connaît sur Air et Cosmos, qui est consultant sur LCI, avec lequel je suis assez souvent sur les plateaux, et qui nous arrive directement de Sainte-Mère-l'Église. Alors, je le remercie particulièrement, parce qu'il était coincé dans la circulation ce matin. On a eu une petite frayeur. Voilà, on a eu une petite frayeur, parce que c'était bien condensé. Il a réussi à prendre le train et est coincé entre ses activités professionnelles, l'IHDN qu'il finit cette année, hein, je crois, Xavier. Et puis, donc, il a très peu dormi ces derniers jours et il nous fait l'honneur de...
Ça se voit.
Voilà, donc, on va commencer cette conférence. Qu'est-ce qu'il vaut mieux commencer par
Pour l'introduction, peut-être que j'ai fait quelque chose
D'accord.
qui était plus basique.
D'accord.
De toute façon, je ne suis pas capable de faire beaucoup plus technique, donc on va...
Voilà. Alors, on laisse la parole à Xavier pour le moment, et Béatrice ensuite.
Alors, on essaie de faire un partage de connexion. On admet tout le monde. C'est bon. Alors, on admet tout le monde. Et on essaye de partager celui-là. Il y en a plusieurs. C'est celui-là. Alors, on va revenir au premier slide. Est-ce que, voilà, je vais me tenir près du micro. et je lance mon chronomètre pour pas dépasser les 20 minutes. Alors moi, je suis plus parti sur une introduction qui était basique sur qu'est-ce qu'on fait dans le militaire spatial, avec les applications qu'on peut avoir. Et les premiers éléments, évidemment, c'est l'imagerie satellite qui commence dès la fin des années 50, début des années 60. Et ça, c'est quelque chose qui est systématique. Évidemment, premières applications militaires, mais on ne va pas s'étendre. Visuel, la vue. Le problème, c'est qu'évidemment, on est limité par les nuages de temps en temps. Donc, on change de longueur d'onde. Et on va également avec des radars. Donc, par exemple, vous connaissez bien le système Starlupe qui est partagé avec les Allemands, avec une image, par exemple, à droite, de ce qu'ils arrivent à voir, malgré la couverture nuageuse, simplement avec le retour du radar qui se fait donc directement dans l'espace. Donc on a de l'imagerie satellite qui est visuelle et également avec des radars. Avec, tout comme on a des radars à imagerie dans les avions, etc. Ensuite, il y a tous les éléments autour de la guerre électronique, c'est-à-dire que quand vous avez un radar qui va être allumé au sol, dans l'espace, bah forcément, il y a une partie des ondes qui vont passer et on va être capable de détecter ces ondes et donc être capable de faire de la triangulation et donc de définir où sont, par exemple, les radars du système S-400. Ou alors on peut intercepter des communications et donc on fait du SIGINT, du Signal Intelligence, et de l'ELINT, de Electronic Intelligence. Le troisième élément que l'on pense tout de suite, c'est évidemment les communications militaires, civiles, dans tous les domaines. Ça évolue très très vite. Par exemple, vous avez eu récemment un drone MQ-9 qui a été piloté par satellite, par une liaison laser. C'est-à-dire que c'était un laser qui envoyait, qui éclairait le drone avec un récepteur qui est à peine gros comme ça. Et comme ça, il pouvait être capable de piloter le drone parce qu'évidemment, la difficulté, quand vous avez une communication par satellite, c'est que vous arrosez très large. Et donc, logiquement, de la même manière qu'on capte ce qui vient du sol, et bien ce qui est envoyé par le satellite peut être capté par tout le monde. Et donc, l'intérêt, c'est que la connexion satellitaire laser est directionnelle, non interceptable, non piratable, non brouillable. Et puis, elle n'est pas détectée par qui que ce soit qui est autour. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'il y a un drone qui est là et qui émet et qui reçoit. Hop, ça ne bouge plus. Ensuite, vous avez tout ce qui est autour du positionnement. Alors évidemment, on connaît tous ce GPS qui est GNSS maintenant avec Galileo, avec Baidu, avec tous les systèmes GLONASS. Ce qu'on sait rarement aussi, c'est que ces systèmes sont aussi utilisés, par exemple, pour parce que ça envoie une heure, c'est des horloges atomiques qui sont dans l'espace. Elles vont aussi envoyer des timings qui sont utilisés pour se synchroniser. Par exemple, les radios tactiques, les PR4G. Utilise la synchronisation. Quand on paye avec la carte bancaire, c'est synchronisé par le GPS également. Donc ça dépasse évidemment très largement la dimension militaire. Et quand vous voyez par exemple nos obus Excalibur qu'on a fournis à l'Ukraine, les obus Excalibur aujourd'hui, enfin tout au début de la guerre, c'était génial, c'était super, ça tapait au centimètre près, on avait des grands succès. Maintenant, a priori, il y a moins de 10% de coûts qui sont au but. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on perd la capacité de positionnement avec des armements très élaborés, eh ben, on perd aussi un potentiel militaire qui est gigantesque. Et la reconfiguration d'obus est quasiment impossible, a priori. Donc les Ukrainiens reviennent sur des obus classiques, parce que les obus Excalibur coûtent 70 000 dollars. Autant tirer des obus à 4 000 pour faire un obus qui ne marche pas en termes de GPS. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de la dissuasion nucléaire, et plus précisément de la détection. C'est-à-dire qu'on a une capacité à identifier des isotopes radioactifs qui auraient été libérés dans l'atmosphère, à identifier des explosions nucléaires, avec par exemple Vela aux États-Unis avec la DARPA, et vous avez aussi la possibilité de voir des lancements de fusées, parce que c'est un suivi infrarouge de ce qui se passe au sol, et vous avez la possibilité de voir le tir des missiles nucléaires ennemis, voire même, vous vous souvenez, le MH-17, l'avion qui a été abattu par la Russie en Ukraine en juillet 2014. Les Américains disent, ils n'ont jamais donné la preuve, parce que certainement qu'ils ne veulent pas révéler la sensibilité de leurs équipements, mais ils ont dit à quelle heure, à quel endroit, est-ce qu'un missile de défense aérien a été tiré. Et donc, ça veut dire que ces systèmes sont beaucoup plus sensibles que simplement se limiter à la dissuasion. Et donc, vous pouvez évidemment avoir un suivi et avoir une anticipation sur l'arrivée des missiles. Et là, par exemple, l'image qu'on a en haut à droite, c'est une fusée de mémoire Atlas, qui a été tiré, et donc il y avait la photo satellite par infrarouge, on voit le décollage de cette fusée. Et ensuite, on a le détournement des moyens satellites. Il y en a plein, en réalité, des moyens satellites civils. Mais par exemple, on a ce cas dans lequel vous avez le suivi des incendies avec un système de la NASA qui s'appelle FIRMS, dans lequel vous avez évidemment les incendies, mais dans le cadre d'un conflit, vous voyez évoluer la ligne de front. Vous voyez où est-ce que ça tire, vous voyez où est-ce que ça tape. Et donc, par le détournement des moyens civils d'observation, vous avez énormément d'informations. On peut donner également l'exemple de la Marine nationale qui a passé un contrat avec un opérateur qui va synchroniser tous les capteurs qu'on a dans le ciel, par exemple, pour être capable de remonter jusqu'au bateau qui a dégazé à partir du moment où on a détecté une nappe de pollution. Et donc, on a comme ça des dizaines et des dizaines de capteurs spatiaux qui vont se coordonner, c'est les big data, et qui vont donner des résultats d'intérêt militaire, alors qu'on est sur des capteurs civils qui, dans l'absolu, ont une résolution qui devrait être inférieure. En tout cas, qui n'ont pas été développés pour ça à l'origine. Ensuite, il y a du coup des satellites à changement d'altitude qui vont aller faire du renseignement, qui vont aller s'approcher de nos satellites, faire du renseignement, aller voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et donc, il y a aussi une obligation de plus en plus importante d'avoir un suivi de l'évolution des satellites. C'est-à-dire qu'au sol, on a des radars de plus en plus importants, je crois qu'il s'appelle Grave, le français, qui vont être capables de détecter les évolutions des orbites des satellites pour savoir si c'est c'est un espion ou c'est quelque chose qui fait simplement des tours, des tours de la Terre. C'est aussi grâce à ça, par exemple, qu'ils ont vu quand les Chinois, anecdote en passant, vous vous souvenez le film Top Gun, il y a un très très beau avion dans le film Top Gun que Tom Cruise détruit au début du film, eh bien, il l'avait laissé sur un parking dans le Nevada, et les Chinois ont pensé que c'était vraiment un avion futuriste, et donc ils ont changé l'orbite d'un de leurs satellites pour prendre la photo à haute résolution sur... Et en fait, c'est grâce au suivi de l'orbite des satellites qu'ils ont pu voir qu'effectivement, les Chinois avaient gaspillé du potentiel de leurs satellites en visant simplement un artifice d'Hollywood. Ensuite, vous avez... Là, je passe plus sur la dimension. Il y a certainement plein d'autres choses que j'ai oubliées, mais c'est ceux que j'ai identifiés dans un premier temps. Le retour des compétitions. Donc, évidemment, vous avez le retour, la course à la Lune. On revient, en fait, aux années 60. Et on a les Chinois et les États-Unis qui, chacun de leur côté, ont des programmes compétition pour revenir sur la Lune, pour des questions de prestige, mais aussi pour des volontés, en tout cas affichées, de pouvoir exploiter les ressources qui sont dans l'espace. Quand on en parle aux spécialistes, il y en a peu qui nous disent que c'est crédible. Mais quand on en parle aux start-upers, ils arrivent à lever des milliards. Donc il y a quand même des gens qui y croient. Les spécialistes nous diront peut-être que ce n'est pas crédible, mais en tout cas, il y a des gens qui mettent des milliards sur la table en pensant qu'ils vont aller exploiter les ressources spatiales. Mais la question se pose, quelle est la légitimité d'une entreprise, puisque maintenant c'est quand même New Space, quelle est la légitimité d'une entreprise à monopoliser du bien qui est spatial? Est-ce que c'est à eux? Est-ce que quand ils plantent SpaceX sur une comète, est-ce que ça leur appartient? Ça, c'est des vraies questions profondément qu'il faut se poser aussi. D'autant plus qu'on a une coopération entre États qui existait avec l'ISS, qui continue à exister avec l'ISS, mais avec maintenant des éloignements entre, d'un côté, le bloc plus ou moins américain, etc., puis avec la guerre en Ukraine. Évidemment, on ne coopère plus avec les Russes. Évidemment, les Chinois sont en train de prendre le lead sur les Russes. Et puis, effectivement, il y a les Indiens, il y a les Coréens du Sud, il y a les Japonais. Tu l'as dit, on est en train de partir dans tous les sens. Et les programmes qui, jusqu'à maintenant, semblaient faire l'unanimité, aller sur Mars tous ensemble avec les Chinois, ça n'a pas l'air d'être diplomatiquement aussi évident maintenant que quand on en parlait il y a 4 ou 5 ans. Même si, évidemment, il y a toujours des programmes en coopération et qu'on a des capteurs à nous, parce qu'il y a des programmes qui durent sur 15 ans, et donc on n'a pas encore coupé tout ce qu'on avait initié à l'époque. Et vous avez le New Space. Et le New Space, qui, évidemment, est quand même dans une proportion ultra importante aux États-Unis, mais qui offre un accès à l'espace à des coûts qui sont tellement faibles qu'aujourd'hui, ils sont à plus d'un lancement par semaine sans savoir qu'est-ce qu'ils vont lancer dans quelques mois. Parce qu'il y a des programmes de lancement qui sont tellement intenses qu'ils font baisser les coûts. Finalement, c'est comme EasyJet ou une compagnie low cost et on est capable d'embarquer un petit micro-satellite en plus quand il y a du départ. Et leur business model de produire sans savoir ce qu'ils vont lancer, c'est quelque chose qui est totalement innovant. Et ils n'ont pas la technologie pour faire comme Ariane 6. Ils n'ont pas la capacité de larguer des satellites aussi gros que les nôtres. Sauf qu'en attendant, ils en font toutes les semaines pour beaucoup moins cher et que nous, Ariane 6, ce n'est pas opérationnel. Et ça, il y a un problème d'accès à l'espace pendant longtemps où il n'y avait plus que les Russes parce que les Américains n'avaient plus leurs navettes et que SpaceX n'était pas encore prêt. On voit que Boeing, à quel point c'est compliqué. Et donc, c'est de plus en plus des entreprises privées qui supplantent les grandes entités nationales comme la NASA ou comme l'ESA pour avoir l'accès à l'espace, que ce soit pour mettre des humains dans l'espace ou que ce soit pour exploiter les ressources, pour aller plus loin ou pour la conquête spatiale. Et vous avez, ça je l'ai évoqué à l'instant, les projets d'exploitation minière, etc., le tourisme spatial, le transport spatial, parce que le tourisme spatial, évidemment, si vous pouvez faire un saut de puce à 100 km d'altitude, vous le faites un peu plus à l'horizontale. Il y a des gens qui nous disent qu'on fera des Paris-Tokyo en une heure et demie en passant dans l'espace. Et il y a même des gens qui l'ont budgété. C'est le travail des consultants. J'en fais partie, mais je ne crois pas dans tout ce que font les consultants. Mais là, ils disent qu'il y a plus de 20 milliards de potentiel économique par an en transport spatial. On verra. Mais voilà, est-ce qu'en 2040, on fera des sauts de puce vers l'autre bout du monde pour le prix d'un jet privé? Des questions à se poser. Et on a évidemment des retombées dans le militaire. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine. Vous avez vu l'intensité de l'usage d'Internet en Ukraine avec SpaceX qui a lancé Starlink, à tel point que Starlink, Elon Musk, quand il a vu une flottille de drones kamikazes navals ukrainiens fondre sur la base de Sébastopol, il s'est dit « Ouloulou, c'est pas bon ». Il a désactivé Starlink et il s'en vante. Il a évité un Pearl Harbor russe sur Sébastopol. Des bateaux qui, ensuite, ont tiré des missiles sur des civils depuis 2 ans. Donc, il y a un privé, tout seul, qui a pu se permettre, tout seul dans son coin, de décider d'avoir un effet stratégique sur un conflit en cours. Maintenant, du coup, c'est plus lui qui a les rênes dans le fonctionnement. Les Ukrainiens essaient d'utiliser OneWeb, qui est britannique également, mais il y a aujourd'hui, enfin, quand je vois les moyens de l'armée française en communication sur le terrain, on ne sait pas faire ce que font les Ukrainiens parce qu'on souhaite être souverain. Mais le fait d'être souverain nous limite fortement dans notre accès, du coup, au haut débit en première ligne. Et quand vous voyez, vous allez dans un centre de commandement, j'ai été plusieurs fois en Ukraine, quand vous allez dans un centre de commandement, un quartier général, eh ben, ils utilisent Starlink pour, en temps réel, avoir le satellite, enfin le drone qui filme, et qui partage son film en direct sur Google Meet par Starlink, qui est regardé dans la salle de commandement et qui permet d'avoir des ordres en temps réel. Et ils font leurs ordres sur Discord, qui est une sorte de réseau social, parce que c'est sécurisé, mais ils ne cherchent pas à être souverains. Mais n'empêche que c'est grâce à ça qu'ils tiennent. S'ils avaient attendu d'être souverains, ils se seraient déjà effondrés. Donc voilà, vous voyez le petit Starlink et vous voyez ici le Sea Baby. C'était les premières versions du drone kamikaze ukrainien. Et vous voyez sur le toit, ils n'avaient pas encore intégré les antennes. Et vous voyez l'antenne Starlink qui est sur le toit. Et ça permettait de piloter ce drone kamikaze jusqu'à l'impact à l'autre bout de la mer Noire, jusqu'au port de Novorossiysk qui est à quasiment 800 km de Odessa. On est incapable de faire ça parce que nous, on se refuse d'avoir des systèmes qui reposent sur une infrastructure qui n'est pas souveraine. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, il faut se poser la question. Un dernier petit point sur les armes spatiales. Avec la nucléarisation de l'espace, vous avez vu les Russes qui se posent la question de faire une arme anti-satellite nucléaire, c'est-à-dire qui ferait exploser une bombe atomique à une certaine altitude, qui aurait pour effet de détruire tout ce qui est autour. Je ne connais pas la crédibilité technique de ce genre de choses, mais évidemment, ça semble faisable. D'autant plus que la Russie a posé son veto pour une résolution de l'ONU qui visait à interdire les armes nucléaires dans l'espace. Quand les Russes posent leur veto, en général, c'est qu'ils veulent se permettre de faire des choses. Et ensuite, il y a les armes nucléaires, alors là, les armes anti-satellites qui ont été développées depuis des années. Vous avez le MiG-31. Le MiG-31, c'est l'avion de chasse ultime qui va le plus vite dans le monde encore aujourd'hui. Il va quasiment à Mach 3. Et qui montait tellement haut qu'il était capable de larguer une sorte de missile qui allait dans l'espace, qui était capable de viser un satellite. Et les Américains, avec le F-15 également, ils ont le F-15 ASAT, qui avait ce potentiel. Et si on regarde du côté du Rafale, vous vous souvenez peut-être à l'époque, le programme Aldébaran, sur lequel il y avait la possibilité, on imaginait en tout cas de pouvoir lancer des satellites, des micro-satellites depuis le Rafale. Ils faisaient une ressource, il allait le plus haut possible, au niveau 500. 500, c'est légal, ça. Je crois que c'est Wikipédia, ils disent qu'il va jusqu'au 500. Donc il allait au 500, il larguait son satellite, et puis il redescendait. Mais c'est-à-dire qu'on a une capacité, depuis les avions de chasse, de tirer ce type d'armes. Et évidemment, vous avez les systèmes au sol. Vous avez par exemple les Chinois, qui ont d'abord détruit un Dongfeng, avec un missile, avec une fusée Dongfeng, ils ont détruit un satellite soi-disant en perdition. Et les Américains, quelques semaines plus tard, on prouvait qu'ils étaient capables de le faire aussi en tirant un missile SM-3. Vous connaissez les frégates Aegis, qui ont des radars très très puissants, qui ont une capacité à aller dans l'espace. Et donc, ça fait un beau nuage de débris, ça a bien mis le bazar dans l'espace, c'est dangereux pour tout le monde. Mais ils ont tous prouvé qu'ils étaient capables de le faire. Et un autre moyen de le faire, un peu moins agressif, c'est avec des lasers éventuellement. Donc là, il y a des systèmes de brouillage. On sait que les Russes ont une capacité à éclairer des satellites qui sont en train de passer pour réduire leur champ visuel. Il y a des développements d'armes laser depuis le sol pour détruire réellement physiquement des capteurs qui seraient en vol. Par contre, de ce que j'ai compris, embarquer des armes laser, il faut une telle quantité d'énergie qu'il faudrait des mini-centrales nucléaires embarquées, ce qui existe, hein, des centrales nucléaires dans les satellites, mais ça demande quand même énormément d'énergie pour pas énormément de résultats. Et il y a un dernier risque qui grandit, c'est la capacité de désorbitation. Je vous ai parlé tout à l'heure des satellites qui étaient capables de changer d'altitude. Et il y a une capacité maintenant à développer des satellites qui font descendre les autres. Et donc les Chinois, plusieurs reprises, alors soi-disant c'est pour passer sur des orbites d'attente en attendant de se retomber dans l'eau, de poubelle, etc. Mais la réalité, c'est que si vous pouvez désorbiter un satellite adversaire, vous ne l'avez pas détruit. Je ne sais pas si c'est considéré comme la guerre indirecte, etc. Mais en tout cas, les Américains, via Northrop Grumman et le programme MEV, et les Chinois, ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire changer l'orbite des satellites quand ils le souhaitent. Du coup, la conséquence, c'est que tous les pays du monde, quasiment, effectivement, ont un programme spatial, militaire. C'est qu'on s'appelle de plus en plus... Bon, normalement, il n'y a pas le slide au milieu. Là. On s'appelle de plus en plus l'armée de l'air et de l'espace. Et que vous avez... Ça, c'est plus un peu bullshit, mais néanmoins, pour la première fois, à la fin en novembre 2023, vous avez un missile-outil qui était dans l'espace et qui a été intercepté dans l'espace. Je ne considère pas que ce soit la guerre spatiale, mais néanmoins, pour la première fois, il y a des armes qui se sont confrontées hors de l'atmosphère. Et donc, c'est le système Arrow israélien, qui fait partie du dôme de fer d'une manière générale, qui a été capable de détruire un missile alors qu'il était encore dans sa phase de montée. Et donc, ils l'ont refait avec l'attaque un peu plus massive qu'il y avait récemment. Mais ça, c'est quand même une innovation qui est cruciale en termes de capacité technologique pour la guerre spatiale. Et un tout petit focus sur ce que vous avez pu voir, ce qui vole très très haut, ce qui vole à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Vous connaissez peut-être les pseudo-satellites, les APS. Il y en a plusieurs, par exemple le Zephyr chez Airbus. C'est des avions non pilotés, évidemment. Là, il fait la taille d'un Boeing 737. Hein. Ça fait des dizaines de mètres d'envergure. Solaire. Quand il fait jour, il monte. Quand il fait nuit, il plane en tournant en rond. Mais on est au niveau de vol 600. Et en fait, ça remplace une partie des satellites. Vous perdez le satellite, ou alors vous voulez déployer un satellite particulier sur une zone qui subira un conflit ou qui a subi des catastrophes naturelles. Vous pouvez rétablir soit de l'observation, soit des communications avec les HAPS. Et il y a deux types de HAPS. Il y a également ceux qui sont sous ballon. Vous pouvez regarder ce que faisait à l'époque Google avec le projet Loon, qui voulait également être capable de rétablir les communications avec un Wi-Fi universel. Leur programme a été annulé par la suite. Mais ils avaient pour ambition de pouvoir offrir gratuitement Internet à la Terre entière. Puis comme vous savez que c'est pour le bien de l'humanité que travaille Google, hein, ce n'est pas pour pouvoir cibler les gens. Donc il y a ces projets qui sont intéressants. Et vous regardez ce que fait Thales, ça a les liens avec leur pseudo-satellite également. Ça se développe réellement beaucoup. Donc c'est aussi un autre niveau dans lequel il va falloir se poser des questions. Comment est-ce qu'on intercepte des systèmes comme les Américains ont eu quand même du mal à intercepter les fameux ballons chinois. Ils ont dû déployer un avion quand il est descendu à une certaine altitude. C'était pas si facile que ça. C'était mon introduction. Ouais.
Alors, est-ce que les personnes qui sont sur Internet peuvent couper leur micro, s'il vous plaît ? Voilà, on me fait cette remarque. Merci infiniment. Voilà, merci pour ce point de situation. On reviendra, j'imagine, sur beaucoup de choses. Il y aura des questions. Donc, je passe la parole à Béatrice Hénaud.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation en général. Je suis très contente d'être ici pour partager les discussions avec vous sur le thème du spatial. Donc je vais faire une petite introduction. Après, je souhaitais vous parler un peu des évolutions des utilisations de l'espace jusqu'à aujourd'hui pour en venir aux changements et aux conséquences de ces changements. Donc j'espère tenir dans le temps. On est bien, donc...
J'ai fait 18 minutes.
Merci d'avoir fait court, comme ça je peux faire long.
5-10 minutes, c'est pas très grave.
Ok, très bien. Donc en guise d'introduction, je vais rappeler quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, puisqu'au bout d'un moment, après, on ne sait plus de quoi on parle. Mais juste pour avoir une idée de la population orbitale aujourd'hui. Alors c'est ce n'est plus du tout aisé de compter les satellites. On va dire qu'au début de la guerre froide, c'était plutôt facile, entre guillemets, hein, puisqu'on avait très peu de lancements. Aujourd'hui, comme ça a été rappelé et comme vous le savez, on a une accélération sans précédent du nombre de lancements et donc du nombre de satellites, où on parle aussi de masse satellisée en orbite. Mais en gros, aujourd'hui, on est à entre 9 000 et 10 000 satellites opérationnels en orbite, quand en 2019, donc c'était pareil, il y a 50 ans, hein, en 2019, il y a 5 ans, on était à 2 000. Donc vous voyez quand même le ratio, 2 000 en 2019, presque 10 000 aujourd'hui. C'est assez impressionnant, et ce qui est encore plus impressionnant ou effrayant au choix, je ne sais pas, c'est que parmi ces 9 000, 10 000 satellites opérationnels, on en a la moitié qui appartient à Starlink, à SpaceX. Donc c'est assez, voilà, quand on parle de Starlink, c'est pas un épiphénomène. Il y a vraiment quelque chose qui, en plus du New Space, nous fait rentrer quelque part dans un nouveau paradigme. Donc on a, comme ça a été rappelé, une multiplication des acteurs privés, certes, mais il est important aussi de rappeler que ces acteurs privés ne sauraient rien sans la puissance publique, sans le pouvoir de financement de la puissance publique, puisque aux États-Unis, SpaceX a été, SpaceX et d'autres, hein, a été fortement et est toujours fortement financé par le gouvernement américain, que les lancements de SpaceX institutionnels sont facturés beaucoup plus cher que les lancements qui sont commercialisés par SpaceX. Et c'est la même chose, on va dire, en Chine, même si bon, l'accès à l'information en Chine est un peu plus délicat, hein, et puis les activités qui y sont difficilement séparables entre privé et public. Mais on pourrait prendre aussi également le cas de la France, hein, où toutes les nouvelles start-up qui sont en train d'éclore aujourd'hui sont quand même fortement financées par la puissance public, notamment si on regarde le volet spatial du plan France 2030 de réindustrialisation du pays. Donc on a parlé également un peu tout à l'heure du droit de l'espace, puisque effectivement, normalement, tout n'est pas permis dans l'espace, hein, c'est réglementé. Donc déjà, l'espace extra-atmosphérique est régulé comme d'autres milieux par le droit international. Donc par exemple, la Charte des Nations Unies s'applique dans l'espace, et notamment le droit à la légitime défense. Donc c'est utile quand même de rappeler que le droit s'y applique également, et il y a du droit dédié, donc du droit de l'espace. Souvent, dans le droit de l'espace, il y a quand même un corpus assez dense, même s'il est un peu ancien, mais on parle toujours, on va dire, du traité fondateur, donc du traité de l'espace de 1967, qui pose des grands principes comme l'usage pacifique de l'espace. Alors, l'usage pacifique n'est pas plus défini, donc c'est un peu le biais, hein, de ce texte. Alors, ça a été fait, bien sûr, à bon escient, hein, pour permettre aux deux grands de l'époque d'avoir une liberté d'utilisation de l'espace. Mais voilà, quand même, l'usage pacifique est posé. Un deuxième principe important, c'est la non-appropriation de l'espace. Donc, non-appropriation de l'espace par proclamation de souveraineté. On ne peut pas dire que l'espace, un État ne peut pas proclamer sa souveraineté dans l'espace, même si certains États situés sur l'équateur l'ont fait en projetant leur souveraineté sur l'arc géostationnaire. Mais ce n'est normalement pas possible. Mais ce n'est pas seulement par proclamation de souveraineté, c'est aussi par voie d'utilisation ou d'occupation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait quand même se poser la question, notamment avec la constellation Starlink et d'autres méga constellations qui vont également venir, si on n'est pas là quand même dans une appropriation de l'espace par voie d'utilisation, donc qui serait quand même contraire au droit de l'espace. Et puis, très importante quand même pour le traité de l'espace de 1967, le placement d'armes de destruction massive et donc d'armes nucléaires en orbite est interdit. Donc, il n'est pas interdit de les développer, il n'est pas interdit de faire de la recherche dessus, mais normalement interdit de les mettre en orbite. Et enfin, un principe important, c'est que l'État reste toujours responsable des activités menées par les organisations non gouvernementales qui seraient reliées aux activités spatiales. C'est-à-dire que SpaceX, quand il lance, l'État américain reste responsable des activités menées par SpaceX. Donc l'État est quand même redevable, responsable en cas de dommage. Donc c'est important de le rappeler quand même qu'il y a toujours cette centralité de l'État dans les activités spatiales, même si elles sont privées, on peut toujours les rattacher à un État, car normalement, chaque satellite est immatriculé, hein, comme votre voiture. Il y a une immatriculation qui le rattache donc à un État propriétaire. Et puis en plus de ce... Alors on retrouve aussi dans ce droit de l'espace qui est plutôt là au niveau international, on va dire des droits nationaux. Donc par exemple, pour parler de la France, on a la loi sur les opérations spatiale qui date de 2008, qui a été également mise à jour. Donc la loi sur les opérations spatiales, c'est surtout des règles de conformité pour les opérateurs spatiaux, pour faire en sorte, surtout en France, qui permettent de lancer de manière sécurisée et aussi de désorbiter les satellites pour ne pas créer trop de débris en orbite. Donc, comme ça a été rappelé en introduction, aujourd'hui, effectivement, on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, d'avoir une hausse des tensions et de la conflictualité dans l'espace. Finalement, cette hausse de conflictualité, c'est aussi le reflet des tensions qui sont sur Terre, hein. J'allais dire tout simplement, entre guillemets, mais la géopolitique sur Terre se projette également dans l'espace. Alors, ça se traduit différemment parce que l'espace extra-atmosphérique est un milieu particulier, hein, comme d'autres, mais voilà, il a ses règles, il a ses mécaniques spatiales, ses lois physiques, donc ça se manifeste d'une manière différente, mais en tout cas, il y a une projection quand même de ces tensions dans l'espace. On a une multiplication des démonstrations, on l'a évoqué, des démonstrations technologiques, des démonstrations de puissance, comme les tirs anti-satellites. Et puis, on a aussi parfois une occupation de l'espace aux dépens de sa maîtrise. Je m'explique. Par exemple, c'est le cas de la Russie. La Russie, ce n'est pas une puissance, c'est une puissance spatiale historique, mais ce n'est plus une puissance spatiale comme peut l'être les États-Unis. Et son mode, finalement, d'occupation de l'espace, c'est un peu d'avoir une stratégie irrégulière. Donc, elle a cette stratégie irrégulière, on pourrait dire, par ailleurs sur Terre, mais en tout cas, c'est une stratégie qu'elle projette également dans l'espace. Par exemple, il y a beaucoup de manœuvres de rapprochement, l'espionnage d'autres satellites, des gènes, de l'écoute peut-être, etc. Donc c'est quand même une manière un peu irrégulière, finalement, de mener une guerre et, à défaut pour elle de pouvoir maîtriser ou de pouvoir rejoindre le niveau de la puissance américaine dans l'espace, elle réaffirme sa présence par ses activités. Donc aujourd'hui, on a plutôt un paysage spatial qui va se former en bloc, finalement, en bloc de coopération. Depuis les dernières années, on a une multiplication des organisations régionales. Donc on a une tendance aux États... j'allais dire, qui ont les mêmes pensées stratégiques ou les mêmes ambitions de se rejoindre. Donc on a un peu la constitution de blocs, plusieurs blocs, mais finalement, bien sûr, on a en tête les deux blocs principaux, le premier bloc par les États-Unis avec ses alliés et ses affinitaires, et de l'autre côté, un peu le bloc mené par la Chine. Cette compétition, on va dire, spatiale, un peu bipolaire, hein, quand même, un peu beaucoup bipolaire. C'est une compétition militaire autant qu'économique. Il y a cette donnée aussi économique très importante. Cette compétition avec les États-Unis, elle s'illustre aussi par le côté économique dans le spatial. Et ça va réellement structurer le paysage spatial. On a parlé de retour sur la Lune. On a deux projets concurrents, le projet Artemis des Américains, avec toute une myriade, on a l'impression, en fait, tous les jours, il y a un nouvel État qui rejoint les accords Artemis. Je crois que là, ils sont à 41 ou 42. Donc, il y a quand même une quarantaine d'États qui ont rejoint le programme de retour sur la Lune américain. Et on a le projet chinois, qui est l'ILRS, qui arrive aussi à capter entre une dizaine et une vingtaine de partenaires étatiques et aussi au niveau de certains centres de recherche. Donc, on voit qu'on compte un peu les points entre les deux, en fait, le nombre de coopérations d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'était une brève introduction, juste pour brosser le paysage spatial un peu actuel. Pour ma première partie, par rapport aux évolutions des utilisations de l'espace, on en a un peu parlé par les utilisations très concrètes, par l'utilisation des charges utiles. En fait, l'espace a été utilisé de manière un peu différente depuis la guerre froide à aujourd'hui. On parle, par exemple, d'une utilisation de l'espace en couches successives, donc une couche qu'on qualifierait plus de stratégique, quand on utilisait l'espace surtout donc bien sûr pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Le but de ces États, c'était de pouvoir observer l'adversaire pour savoir combien il y avait de missiles, et notamment de missiles stratégiques, comment étaient configurer leurs infrastructures militaires. Donc on était dans de l'observation, de la reconnaissance, on l'a dit aussi, de l'alerte avancée de l'adversaire. Donc il y a cette première couche stratégique. Ensuite, on a une couche qu'on nomme opérative et tactique. Là, c'est plus l'utilisation des systèmes spatiaux au profit du théâtre militaire. Donc là, on a une date un peu charnière qu'on comprend régulièrement pour marquer un peu ce basculement, ou on va dire une basculement vers une autre utilisation de l'espace. C'est la guerre du Golfe de 1990-91, qui a été qualifiée par ailleurs de première guerre spatiale, parce que c'était pas la guerre dans l'espace, mais c'était la première fois où les satellites étaient utilisés de manière massive dans la planification et la conduite des opérations militaires. Donc là, on a une utilisation opérative et tactique qui aujourd'hui est plus que jamais d'actualité. Ensuite, on a une couche qu'on appelle la couche de la sécurité nationale, c'est-à-dire que là, on va utiliser les satellites pour faire du renseignement et aussi pour assurer la sécurité nationale. Surtout, c'est surtout valable pour les États-Unis, hein, aussi après le 11 septembre. Et avec tout ça, cette superposition des couches, va-t-on dire, on voit bien que finalement, l'utilisation de l'espace est devenue presque indispensable. Alors, on parle surtout des États-Unis et de l'Europe également, mais que maintenant, pour les États-Unis, cette dépendance à l'espace crée bien sûr des vulnérabilités, une grande vulnérabilité. Et donc la volonté, ça va être de contrôler cet espace, de pouvoir le surveiller, de pouvoir le contrôler et de pouvoir le dominer. C'est clairement écrit, hein, dans la doctrine spatiale américaine, c'est la domination de l'espace qui est recherchée, envisagée pour les États-Unis, parce que c'est un domaine d'intérêt vital, hein, comme en France, on l'a aussi nommé de cette manière-là. Donc l'espace est devenu un domaine opérationnel, c'est-à-dire utilisé pleinement par les opérations, domaine opérationnel reconnu par l'OTAN. Et c'est nommé aussi, comme on l'a rappelé, maintenant, au-delà de ça, hein, ce que nomment les États-Unis nomment cela comme « warfighting domain », donc un domaine de combat ou un domaine de guerre où on peut se faire la guerre directement dans l'espace. Ça s'illustre aussi par la création de la Space Force en 2019, même si c'était déjà un débat interne aux États-Unis de la création d'un service dédié. Mais ça rentre dans cette logique, sachant que 2019, c'est aussi la création du commandement de l'espace en France. Aujourd'hui, on identifie à peu près 11 puissances spatiales. Alors, quand on nomme puissance spatiale, il n'y a pas une définition unique de la puissance spatiale, mais ce qu'on retient habituellement, une puissance spatiale est un État qui est capable de maîtriser, on va dire, la chaîne de valeur du spatial de A à Z, c'est-à-dire est capable de concevoir ses satellites, de les construire, de les lancer, de les opérer et éventuellement de les surveiller. Donc à ce titre, on retrouve bien sûr les États-Unis, la Russie, la France / l'Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, Israël et Iran. En plus de ça, on a à peu près 100 États maintenant qui sont propriétaires de satellites. Donc ils ne les lancent pas nécessairement, puisque la capacité de lancement, c'est quand même une capacité qui aujourd'hui augmente, mais qui est relativement rare. Ils ne les contrôlent pas toujours, mais en tout cas, ils disposent de ces données. Ensuite, pour donner une petite idée des budgets différents, puisque alors, les budgets, c'est encore des chiffres qu'il faut toujours manier avec précaution, et c'est parfois utile de regarder le budget au regard du PNB de l'État, comme ça on voit un peu l'effort qui est consenti. Mais pour avoir un ordre d'idée, le budget spatial américain aujourd'hui, c'est entre 50 et 60 milliards d'euros, quand pour l'Union européenne, on est à peu près à 12. La Chine, bon, les chiffres sont aussi à prendre avec des précautions, mais on estime que c'est entre 15 et 20 milliards. Et la Russie, 4 milliards. Alors la Russie, 4 milliards, ça paraît pas énorme, mais par rapport finalement à son PNB, c'est quand même un effort important qui est fait par ce pays. En France, si on parle d'espace militaire, je vais prendre pour référence la loi de programmation militaire. On a programmé pour la nouvelle LPM 2024-2030 6 milliards 6 milliards d'euros. Je vous évoquais tout à l'heure le volet spatial de France 2030, c'est 1,5 milliard d'euros. Et le budget du CNES en 2024, c'est environ 3 milliards. Donc voilà, ça donne juste quelques ordres d'idées. Hein. On va juste retenir États-Unis 60 milliards, France 6 milliards. Bon, il faut pas comparer, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idées dans la tête. Donc, effectivement, on a parlé tout à l'heure de militarisation de l'espace. On différencie souvent militarisation et arsenalisation de l'espace ou course aux armements dans l'espace. La militarisation, c'est vraiment l'utilisation des systèmes spatiaux, qu'ils soient purement militaires ou duo ou civils, au profit des théâtres d'opération. Et l'arsenalisation de l'espace, c'est vraiment mettre des armes en orbite, utiliser l'espace à des fins offensives et agressives. Alors, on a cité tout à l'heure le développement des capacités antispatiales, notamment enfin antisatellites. Donc, effectivement, les États-Unis ont détruit un de leurs satellites en 2008 en réponse vraisemblablement aux tirs antisatellites chinois. L'Inde a procédé à un tir antisatellite contre un de ses satellites. Et aussi la Russie. La Russie en novembre 2021, donc quelques mois avant l'invasion en Ukraine. Donc, je ne sais pas si c'est un signe avant-coureur, mais en tout cas, c'est intéressant entre guillemets de le noter. À côté de ça, parce que là, ce sont vraiment des démonstrations qui créent des débris qui sont assez impressionnantes, démonstrations de force, de puissance, éventuellement de découragement dans l'espace. On a plein d'autres comportements, on va dire, qui sont jugés à minima irresponsables dans l'espace. Donc, des satellites qui sont capables de manœuvrer de manière agile, de se déplacer d'une orbite à une autre, de se rapprocher d'un autre satellite sans trop savoir ce qu'il va y faire. Donc, on a le souvenir de ce satellite en orbite géostationnaire, satellite russe qui se rapproche du satellite de télécommunication militaire franco-italien en 2018, qui a été dénoncé par la ministre de l'époque, Florence Parly. Et puis, il y a aussi ce développement de poupées russes en orbite. Donc, on envoie un satellite en orbite et ce satellite libère quelque chose. Donc, un sous-satellite où les Américains parlent de space torpedo. Donc, voilà, il libère un autre objet, sans qu'on sache vraiment à quoi ça sert. Et dans quel visée ? En tout cas, ça n'a pas l'air quand même très, très amical. On voit qu'il y a des préparations, finalement, qui se font en orbite. Donc, on a beaucoup de manœuvres de rendez-vous, manœuvres de proximité. On appelle ça aussi des rapprochements non coopératifs, parce que celui qu'on approche n'a pas donné son autorisation. Autant on a ces rapprochements effectué par la Russie, on l'a aussi par les États-Unis. Les États-Unis font aussi la même chose, et par la Chine également. Alors, tous ces changements, pour quelles conséquences ? Alors, on a dit multiplication des acteurs dans l'espace, on va dire acteurs privés, mais bon, fortement adossés à la puissance publique. Donc, on a aussi la multiplication des acteurs étatiques en général, c'est-à-dire qu'il y a des États, logiquement, on parle de démocratisation de l'espace, les coûts de lancement sont moindres, les satellites aussi avec la miniaturisation, je pensais que je n'allais pas réussir à le dire, j'ai réussi, des composants, donc effectivement, c'est plus accessible. Donc, on a des États sur le continent africain, dans les pays du Golfe, asiatiques ou même en Amérique latine, qui voient aussi l'utilité pour le développement économique de leur pays et puis même parfois pour organiser leur territoire, d'avoir accès à ces systèmes spatiaux. Donc, multiplication des acteurs étatiques, certes. Ensuite, c'est surtout la multiplication des acteurs privés qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est significative. Finalement, les acteurs privés, ce n'est pas non plus nouveau dans le spatial. C'est peut-être leur nombre qui aujourd'hui change un peu la donne. Mais on a toujours eu des acteurs privés. On les nomme maintenant des acteurs privés un peu... On les nomme traditionnels, mais en tout cas, on s'est toujours appuyé, même en France, sur des images civiles, comme quand on a développé, quand le CNES a développé Spot, qui ensuite a été... revendu à Airbus Defence and Space, mais on a toujours utilisé les images de Spot en complément des images qu'on pouvait avoir sur des satellites purement militaires, notamment quand on a commencé à avoir la série des Helios, si ça vous parle, des satellites d'observation et donc de reconnaissance. Maintenant, ce qu'on voit aussi, la logique, c'est d'avoir un usage de l'espace que certains nomment un usage banalisé ou récréatif, puisqu'on a un peu la convergence de deux mondes, le monde spatial et le monde du numérique. Donc on le voit bien avec les nouveaux acteurs, entre guillemets, nouveaux du New Space, dont le plus emblématique, c'est Elon Musk de SpaceX, qui vient du numérique et qui va appliquer ces logiques d'industrie venant du numérique au spatial. Et vraiment, là, on a un projet politique qui est aussi de faire de l'espace un outil à la portée de tous et dans un but récréatif. J'ai noté que depuis 2010... on a un Space Act aux États-Unis qui souligne que le bien-être général des États-Unis d'Amérique requiert que l'administration recherche et encourage le plus possible l'exploitation de l'espace sur des bases commerciales. Vous voyez, donc le bien-être est lié au développement commercial de l'espace et on a vraiment cette convergence aussi des deux mondes, spatial et numérique. Alors, voilà, première un peu conséquence de ce nouveau, nouveau paysage spatial, c'est la multiplication des acteurs. La conséquence évidente, c'est forcément, s'il y a plus de monde, il y a plus de risques peut-être en orbite de se croiser, voire de créer des accidents. Donc, la population orbitale est de plus en plus nombreuse. Les satellites peuvent être capables de se déplacer s'il y a un risque de collision. Simplement, comme ça a été rappelé aussi tout à l'heure, quand un satellite se déplace, il utilise du carburant qui diminue sa durée de vie. Donc la technologie maintenant peut permettre de limiter un peu cet inconvénient, mais malgré tout, c'est encore aujourd'hui le cas. Ce qui est difficile aujourd'hui d'imaginer, parce que souvent les gens nous demandent combien de satellites on peut mettre en orbite, en fait, quelle est la capacité orbitale. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'estimation unanime des scientifiques et chercheurs sur le domaine. C'est qu'on estime que, oui, il doit avoir une capacité limite, mais on a du mal à l'évaluer aujourd'hui. À l'heure des méga-constellations, on est encore plus, finalement, dans le flou. Et on a vraiment, d'une analyse à une autre, des estimations très, très, très différentes. Ce qui est sûr pour les experts, c'est que certaines orbites, en tout cas, certaines voies seront rendues inaccessibles, puisque ce qui est intéressant, par exemple, pour les méga-constellations de connectivité, c'est d'être sur des portions d'orbite très précises, entre 400 et 1200, parce qu'au-dessus, il y a trop de dégradation possible. En dessous, on descend trop vite dans l'atmosphère. Donc, ce sont finalement des portions d'orbite qui sont très, très prisées et qui seront forcément vite congestionnées et rendues accessibles aux autres. Donc, il n'y aura pas forcément ce qu'on appelle demain, finalement, il n'y aura pas forcément une réaction en chaîne, c'est-à-dire un satellite qui rentre en collision avec un autre, qui va créer des débris, qui va rentrer en collision avec d'autres satellites, etc. On ne va peut-être pas nécessairement avoir demain ce cas de figure, même si ce n'est pas à nier pour les années ou les décennies à venir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que certaines voies vont être très difficiles ou rendues très difficilement accessibles. Et ça pose problème quand vous lancez un satellite, parce que quand vous lancez un satellite, vous traversez quand même des couches atmosphériques, voire spatiales. Et pour trouver finalement une fenêtre de lancement, ça va être rendu assez compliqué avec ces méga constellations. Donc ça, premier problème, donc la congestion, on va dire, physique. Donc il y a un réel enjeu de coordination du trafic spatial. Comme aujourd'hui, on régule le trafic aérien, il faudrait que dans l'espace, on ait aussi cette coordination. Aujourd'hui, elle n'existe pas ou très peu parce qu'il est obligatoire qu'il y ait à minima une coordination ou un échange d'informations. Si ceux qui sont dans l'espace n'ont pas envie de rentrer en collision avec un tiers, il est essentiel qu'il y ait un minimum d'échange d'informations. Mais comme ce secteur est ultra stratégique, les États sont très réticents à donner des informations. Donc, Donc c'est un peu difficile d'avancer sur ce terrain-là. Alors Elon Musk a trouvé la solution, entre guillemets, en développant des calculs et des possibilités d'évitement de collisions automatiques, régies par l'intelligence artificielle. Donc on pourrait se dire, eh ben, très bien, ça c'est une solution, qui est très bien. Alors je pense que cette solution, elle sera très bien seulement quand les autres auront aussi ce système d'évitement automatique. Et puis moi, ce qui m'a été remonté par des personnes qui faisaient face aussi à ces systèmes, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas les algorithmes qui régissent ces systèmes d'évitement automatique. Alors, à partir de quand le système considère qu'il y a un risque, à partir de quand il se déplace, et en plus, il n'informe pas le satellite, finalement, qui est en face. Il ne lui dit pas, attention, je vais me déplacer de autant. Donc, si l'autre satellite en face se déplace également pour l'éviter, bon, enfin, vous imaginez que c'est en fait complètement contre-productif. Donc, voilà, il y a des choses qui se font, mais il pourrait y avoir une coordination entre les États, mais aujourd'hui, la discussion entre les États est très difficile, notamment entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Il y a quand même des initiatives qui sont faites, portées par la France, l'Union européenne. On parle de Space Traffic Management ou Space Traffic Coordination, pour dire que voilà, on se coordonne, on ne veut pas... On ne peut pas donner des ordres, mais en tout cas, on se coordonne à minima. On a un système au niveau européen, le European Union Space Surveillance and Tracking. Donc là, l'objectif, c'est vraiment aussi d'éviter à tout prix les collisions et une réaction en chaîne. Comme il a été rappelé, la France, au début des années 2000, est doté encore aujourd'hui du système GRAVE, donc le grand réseau adapté à la veille spatiale, avec des compléments donnés par les services commerciaux. Donc on a une surveillance de l'espace qui est essentielle à faire aujourd'hui, et la France a cette capacité. Et puis finalement, comme les États ont aussi beaucoup de mal à se mettre d'accord, les opérateurs commerciaux tendent à s'organiser d'eux-mêmes, puisque eux, c'est quand même leur business qui est en jeu. Donc on a des associations, par exemple la Space Data Association, qui se forment, et les opérateurs commerciaux échangent entre eux de l'information pour éviter ce genre de scénario. Donc on va dire que les lacunes des États, finalement les réticences des États sont un peu compensées parfois par le secteur privé, qui a besoin, lui, de se coordonner, donc il avance. Je vais vous parler aussi rapidement du deuxième problème, finalement. On parle beaucoup, de congestion à proprement physique, mais dans l'espace, on a aussi la congestion spectrale, donc c'est l'usage du spectre. Et finalement, lui aussi est fortement contesté, parce que quand vous voulez mettre un satellite en orbite, il est obligatoire de réserver auprès d'une agence des Nations Unies, de faire une réservation de position orbitale associée à une fréquence. Donc ça, c'est valable pour absolument tous les satellites. C'est régi par une agence des Nations Unies qui n'a pas un pouvoir de contrainte sur les États, mais qui a juste un pouvoir... c'est juste une organisation technique qui va dire si un État fait une demande pour placer des satellites en orbite, elle va juste voir si effectivement il y a de la place et va lui accorder l'autorisation ou pas. Maintenant, aujourd'hui, cette agence doit se mettre à la page des méga-constellations, parce qu'avant, quand il fallait effectivement essayer de voir si le trafic était possible à quelques milliers de satellites, c'était, on va dire, gérable. Mais à l'ère des méga-constellations, c'est un réel défi pour cette agence de pouvoir coordonner l'ensemble de ces volontés d'occupation du spectre, sachant qu'il y a aussi beaucoup de stratégies de contournement qui sont développées par les États et les opérateurs privés, puisque, juste pour donner un exemple, par exemple, le SpaceX a fait ses premières réservations de position orbitale et de spectre via le Danemark. Il n'est pas passé par les États-Unis. Il a réservé des positions orbitales via le Danemark, qui a ensuite déposé ce dossier auprès de l'Agence des Nations Unies, qui est l'Union internationale des télécoms. Alors pourquoi ? Alors il y a plusieurs hypothèses, mais c'est vrai que les plus réalistes, ce serait que il est L'administration américaine est plus contraignante en termes de règles à respecter, et donc que le Danemark a moins d'expérience et est moins contraignant, donc c'était plus facile de le faire via cet État. Mais bon, je ne pointe pas du doigt SpaceX en particulier, puisque d'autres opérateurs, même européens, passent aussi par d'autres États, qui ne sont pas leur État, on va dire, d'origine. Et ensuite, dernier peut-être... dernière conséquence, c'est les enjeux environnementaux. On en parle de plus en plus aujourd'hui, puisque qui dit population orbitale plus importante, donc pollution orbitale. Donc on parle de la population orbitale en général qui est très importante, de la pollution lumineuse aussi. Hein. Il y a beaucoup d'astronomes qui se sont insurgés contre les trains de satellites Starlink et leur luminosité qui gênaient leurs observations. Et puis il y a aussi un impact aujourd'hui qui est très mal et qui est pas évalué, c'est la pollution en haute atmosphère, puisque quand on regarde le nombre des lancements, c'est très impressionnant. Hein. Comme je vous le disais, on passe de 2000 satellites en 2019 à 10 000 aujourd'hui, donc il a fallu les lancer. Et on n'a pas d'estimation sur la pollution de ces lancements, de ces fusées qui envoient ces centaines de satellites, et aussi toutes les retombées dans l'atmosphère. Donc là, on est un peu dans une black box, hein, dans la boîte noire un petit peu. Mais aujourd'hui, notamment la France et l'Europe poussent véritablement pour qu'on évalue l'impact environnemental de notamment de ces méga-constellations, puisque c'est quand même elles qui changeraient réellement la donne. Et voilà, je pense que je vais peut-être m'arrêter là, comme ça. Après, on peut donner place à la discussion.
Un très grand merci. Alors, pour lancer la discussion... Je vais commencer. J'ai quelques questions, mais qui sont questions de néophyte. Alors, l'espace extra-atmosphérique, c'est quoi? C'est 20 km à peu près? C'est combien? Alors,
la ligne de Kármán, c'est 100 km officiellement. 100 km. Mais en réalité, à partir du moment où il n'y a plus d'atmosphère, il n'y a plus d'avions normaux, et on considère qu'on est quasiment dans les balbutiements de l'espace. Mais on a des avions qui volent dans l'atmosphère beaucoup plus haut que ça. Mais la limite officielle, c'est 100 km. Et aux États-Unis, c'est...
Par exemple, les ballons chinois volaient à quelle altitude?
Ils volaient en dessous,
oui, ils volaient en dessous,
mais ils volaient au-dessus de l'espace aérien contrôlé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un espace aérien qui est contrôlé parce qu'il y a des avions qui peuvent aller dedans. Donc, on se donne les autorisations, la tour de contrôle autorise, etc. Et donc, les ballons étaient au-dessus de l'espace aérien contrôlé, mais en dessous de l'espace.
D'accord. Ouais, donc, ce qu'on appelle l'espace aérien supérieur. Donc, c'est vraiment
C'est une zone grise, ça. C'est quoi, en fait.
Oui, parce qu'il n'y a pas de régulation actuellement de cette zone. Et, alors, pourquoi c'est pas. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'objets. Donc il n'y avait pas de nécessité de réguler, mais maintenant il y a de plus en plus d'objets qui vont occuper cette zone d'espace aérien supérieur, donc il y a une tendance à la régulation. Voilà. Et juste pour revenir sur la limite, en droit, il n'y a pas de limite officielle à l'espace, il n'y a pas de définition de la frontière à partir de quand... Voilà. Mais encore une fois, c'est fait sciemment, et même la France a réaffirmé qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait une définition précise en kilomètres du début de l'espace.
Ah oui. Alors ça, ça me permet d'avoir la deuxième question que je voulais poser. Qu'est-ce qui fait que, justement, s'il n'y a pas de définition précise, je veux dire, à partir de la Première Guerre mondiale, on décide que la troisième dimension existe, on ne se pose pas la question de savoir si on a le droit de l'utiliser sur le plan militaire. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide que l'espace extra-atmosphérique n'est pas finalement la simple continuation verticale de la troisième dimension où vont les avions, et pourquoi on lui donne un statut un petit peu spécifique, puisque vous avez dit usage pacifique et non appropriation de l'espace en début de conférence. Alors, qu'est-ce qui rend l'espace extra-atmosphérique si particulier qu'on ne lui attribue pas les mêmes conditions, les mêmes règles que l'espace aérien, finalement? Ouais.
Bah, je disais que ça arrangeait bien les deux grands de l'époque de pas définir de frontières, puisque, comme je disais, l'objectif des deux, c'était d'espionner l'autre. Et donc, à partir du moment où l'URSS lance Sputnik et que les États-Unis ne disent pas « vous n'avez pas le droit de survoler mon espace au-delà de l'espace aérien, tacitement est engagé le fait qu'il est possible de traverser et de survoler, le territoire adverse sans qu'il y ait de protestation, contrairement à l'espace aérien, comme vous le rappelez, et à l'aventure, on pourrait dire, de la mésaventure de Gary Power avec son U-2 qui a été abattu au-dessus du territoire soviétique. Et finalement, la solution, c'était le satellite. Déjà, il n'y a pas d'humain dedans, donc c'est moins risqué, c'est plus haut, donc c'est compliqué à atteindre. Et ça a été validé tacitement. Et les deux se sont mis d'accord sur le fait que ça les arrangeait aussi. Et comme je disais, il y a des velléités parfois de projection de souveraineté dans l'espace, notamment dans les années 70, mais récemment encore, les États qui sont situés sur l'équateur, notamment il y avait la Colombie qui a revendiqué une souveraineté sur l'arc géostationnaire, puisque l'orbite géostationnaire, c'est un point fixe quand on est en face de la Terre. Donc on pourrait projeter sa souveraineté. Bon, ça a été refusé, mais voilà, il y a quand même cette velléité qui existe. Mais en tout cas, pas en orbite plus basse.
En fait, j'allais dire quasiment. J'allais donner l'exemple des U2. En fait, à l'origine, ouais. Les Américains.
Il était à quelle altitude, lui, le U2?
Il était à quasiment 30 km. Mais à vérifier. Mais
au-dessus de l'espace.
Très au-dessus. En fait, réalité, c'est à partir du moment où c'était inatteignable, on considérait que c'était presque de l'espace. C'est pour ça qu'ils se permettaient de survoler l'Union soviétique, parce que les Soviétiques n'avaient aucun moyen de les intercepter jusqu'à ce qu'ils découvrent effectivement qu'ils en avaient peut-être développé un et qu'ils perdent le U2. Mais techniquement, il n'y a pas de possibilité, à part d'affaire du géostationnaire, mais là, c'était arrivé beaucoup plus tard. Par défaut, un avion vole dans l'atmosphère et on peut le contrôler, mais un satellite a besoin de tourner beaucoup plus vite. Donc, on ne peut pas lui interdire, il ne peut pas contourner un espace. Donc, techniquement, technologiquement, on a été contraint d'avoir un survol autorisé systématiquement pour tout ce qui va passer dans l'espace, finalement.
Oui, c'est ça, parce qu'on dit que l'avion, lui, on l'abat parce qu'on considère quasiment que c'est un avion, qu'il est habité, qu'il vole au-dessus de l'espace aérien, mais on n'abat pas le satellite. Il y a quelque chose d'un petit peu baroque là-dedans.
On a besoin de l'espace, l'espace est libre, c'est comme le pôle sud.
Il y a une espèce de modus vivendi entre les deux, en disant les deux en ont besoin. Donc,
voilà, c'est ça. Ça, c'est au début, mais après, on a parlé des stratégies de contestation et des lasers. Donc, il y a des systèmes chinois qui ont aveuglé des satellites américains quand ils passaient au-dessus de leur territoire. On voit bien que, malgré tout, on peut quand même aujourd'hui contester un petit peu l'observation de l'espace, mais c'est récent.
Les Russes aussi, quand ils préparaient leur invasion fin 2021, début 2022, ils avaient aussi éclairé des satellites d'observation.
Et on peut considérer que c'est la fin de la parole de l'usage pacifique de l'espace avec les tentatives réussies d'ailleurs de destruction de satellites comme l'ont fait les Russes avant en 2022.
Alors le droit de l'espace est toujours d'actualité. Donc
le droit, tout le monde s'en fout en fait, c'est ça un peu le problème. Le droit international aussi est d'actualité et pourtant.
Je sais bien, je suis pas naïve, je suis pas du tout naïve, mais ce que je veux dire, c'est que après la définition de pacifique est très très molle. Va-t-on dire. Et juste pour donner un petit exemple, il y a eu le tir anti-satellite fait par l'Inde, dans ses déclarations officielles, l'Inde a dit, parce que à première vue, un tir anti-satellite, ça n'apparaît pas pacifique. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais à première vue. Et finalement, dans leur déclaration officielle, c'était de dire « si je détruis ce satellite, pour moi, c'est une démarche pacifique, puisque ça permet de créer ce qu'on dit en France du découragement, enfin, une dissuasion vis-à-vis des autres. Donc, c'est un effet stabilisateur, donc c'est pacifique. » Donc, vous voyez que tout est relatif. Mais voilà, c'est juste pour ne pas dire que je suis naïve, mais en tout cas, la définition est élastique.
Très bien. Alors, maintenant, on peut passer. Qui veut poser des questions? Alors, Christian, tu pourrais passer le micro, là. C'est toujours pareil, ça. Je ne sais pas s'il faut toucher quoi que ce soit. Normalement, ça doit marcher au bout d'un moment.
On va parler fort. On répétera, sinon. Allez-y.
Je vais essayer de parler fort. Deux questions. Ma première question, madame, est pour vous. Auriez-vous l'humilité de revenir sur les chiffres des montants financiers alloués que vous avez cités au début de votre exposé? J'ai noté pour la France 6 milliards d'euros au titre de la LPM. Alors la LPM, c'est 2024-2030.
Oui, c'est ça.
Bon, il en milliards, la Russie 4 milliards, la Chine... Merci.
La Chine éventuellement 20 milliards. Est-ce que c'est pour la même période, madame ? Ou est-ce que ce sont des montants annuels ?
Oui, c'est ça un peu le problème. Alors, pour les États-Unis, c'est annuel, effectivement.
Ah oui.
Normalement, ces montants sont comparables, donc sont annuels. Mais dans les différents évaluations de chiffres, vous allez trouver un peu beaucoup de différences. Donc c'est pour ça que je disais que ça va prendre entre eux avec beaucoup de pincettes. Maintenant, pour ce qui est de la France, voilà, j'ai pu préciser parce que c'est beaucoup plus transparent pour nous. Mais par exemple aussi les budgets aux États-Unis, bon, on compte pas tout ce qui est Black Program. Enfin voilà, parce que c'est comme je disais, c'est une boîte noire. Donc j'aime bien donner quelques chiffres pour qu'on ait des repères, mais effectivement, c'est toujours un peu tarte à la crème.
Bien, merci beaucoup. Ma seconde question, alors, est un caractère plus général et en vous priant de m'excuser d'être arrivé en retard, parce que ça a peut-être déjà été traité avant mon arrivée. L'armée de l'air a changé son nom, il s'appelle maintenant armée de l'air et de l'espace. Est-ce qu'elle a l'exclusivité de l'action sur l'espace, ou y a-t-il éventuellement encore quelques traces concernant d'autres armées? Je pense, en me référant au début dans l'armée américaine, la marine américaine, qui au sein des États-Unis était une maison extrêmement puissante, peut-être plus que ne l'est la marine française au sein de la maison France, avait, me semble-t-il, gardé pendant longtemps, et peut-être encore maintenant, une certaine compétence en la matière. Merci beaucoup.
Donc effectivement, l'armée de l'air et de l'espace, changer de nom pour se saisir du spatial. L'essentiel des spécialistes, on va dire, espace, étaient déjà des aviateurs. Donc ça a été un peu pour cela que c'est devenu un peu dans le giron de l'armée de l'air et de l'espace. Maintenant, on a un commandement de l'espace qui est interarmé. Donc on a autant des aviateurs que des marins. D'ailleurs, le numéro 2 est un contre-amiral. Donc nous avons un marin. Il y a des terriens également. Et pour le fonctionnement, en fait, l'armée de l'air et de l'espace, c'est surtout le côté organique qu'elle gère, c'est-à-dire génération de compétences, ressources humaines et entraînement. Donc elle a la responsabilité. Maintenant, pour tout ce qui est les opérations, ça relève toujours du chef d'état-major des armées, logiquement. Finalement un organisme, on va dire, à deux têtes. Il y a toujours cette fonction opération qui revient au chef d'état-major des armées, et c'est un objet interarmé. De toute façon, quand on voit les utilisations de l'espace, c'est clairement au profit de l'ensemble des armées. On ne peut pas le cantonner finalement à une armée. Mais effectivement, pour tout ce qui est génération de compétences et entraînement, c'est du ressort de l'armée de l'air et de l'espace.
Oui. J'allais dire la même chose, en fait, que toutes les armées reposent nécessairement sur le spatial, sur la capacité spatiale, que ce soit le positionnement, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le renseignement. Mais en plus, il y a effectivement dans la marine, on utilise également les bateaux pour suivre les tirs, etc. Et puis on regarde l'armée de terre, quand on regarde l'implication de l'armée de terre à Kourou, forcément toutes les armées sont impliquées pour le soutien du spatial aussi, qu'il soit civil ou militaire. Donc c'est, on ne peut pas le privatiser, mais effectivement c'est l'armée de l'air et de l'espace, ça semblait quand même logique que ce soit eux qui reprennent le nom.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain, il va y avoir, une quatrième armée, une armée de l'espace? Parce que, en 1917, il y avait de l'artillerie spéciale, et puis c'est devenu l'arme blindée. Vous voyez, donc, je rappelle que l'armée de l'air a appartenu à l'armée de terre jusqu'en 1934, à peu près, hein, c'est ça. Donc, parce que c'était une nouvelle armée. Puis un jour, elle s'est tellement développée qu'elle est elle a eu sa propre logique, ce qui est absolument normal. Donc on peut penser que c'est quelque chose de transitoire et que tôt ou tard, on va évoluer vers un véritable commandement de l'espace.
Et l'Ukraine a son armée des drones maintenant, une armée à part. Donc c'est peut-être une évolution. Après, à part les États-Unis qui ont vraiment une puissance militaire avec le X-37, ils ont des drones spatiaux qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils font. À part eux qui ont aujourd'hui clairement ouvert la part sur la Space Force, qui est sexy en termes de nom accessoirement, je ne crois pas que les autres nations aient cette vocation.
Non, je ne pense pas. Et puis pour le moment, enfin, c'est l'argumentaire qui est mis en avant, mais c'est 350 personnes qui font du spatial en France. Et l'objectif, c'est d'arriver en 2025 à 500 personnes. Donc pour le moment, l'argumentaire, c'est de dire on ne fait pas une armée non plus à 500 personnes. Donc voilà, après, ça ne veut pas dire que ça va aller en augmentant, mais la Space Force, c'est à peu près 16 000 personnes, 23 milliards d'euros. Donc voilà un peu les ordres d'idées, encore des chiffres, mais voilà, on n'est pas, on va pas créer une armée pour le moment.
Il y a une question en ligne.
Bon, pour l'instant, effectivement, les gens gardent leur coloration d'origine, terre, mer, air. Et effectivement, on pourrait imaginer une quatrième coloration spécialiste espace.
Oui.
Voilà. Pour rebondir également sur les armées, l'autonomie des armées de l'air, l'armée de l'air américaine a son autonomie après la Seconde Guerre mondiale, hein, parce que pendant, jusqu'à y compris les opérations de la Seconde Guerre mondiale, sur les ailes des avions, USAAF, et c'est seulement après USAAF.
Très bien.
Alors, il y a une question en ligne, en fait.
Une question en ligne.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur
le... ligne après vous. Alors, une question en ligne.
Est-ce qu'on peut revenir sur l'exploitation économique de l'espace? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est réaliste? Et à quelle échéance? Y a-t-il des réflexions pour essayer d'organiser éventuellement, voilà, sur les matériaux spatiaux, sur les...
Oui, ben, je pense que comme vous le rappeliez, il y a beaucoup de controverses pour le moment et beaucoup de questions qui se posent sur la réelle exploitation des ressources sur place. Ce qu'on voit surtout, c'est pas forcément... Enfin, c'est un scénario, mais d'aller exploiter les ressources et de revenir sur Terre, ça paraît hypothétique. Maintenant, on parle beaucoup plus d'exploiter les ressources de la Lune pour aller ensuite sur d'autres corps célestes. Donc l'eau, la régolithe, etc. sur place, pour ensuite en faire finalement faire de la Lune une base, entre guillemets, pour aller sur les autres corps célestes. Donc là... Là, pourquoi pas, mais bon, aujourd'hui, on en est quand même un peu loin.
Parce que l'exploitation commerciale, le coût de ramener un kilo d'un météore est tellement gigantesque que même si c'était du diamant pur, vraiment, il faut se poser la question.
Peut-être qu'on va d'abord aller les chercher dans les grands fonds marins avant d'aller sur la Lune.
Les nodules polymères.
Ça reste une question de prestige avant tout, pour le moment encore, véritablement, un peu comme en 58. Le premier qui va dans l'espace, et puis ensuite, si on... Les Chinois, par exemple, d'aller chercher une pierre lunaire sur la face cachée, c'est une démonstration de force technologique.
Oui, c'est aussi, comme vous le dites, une quête de prestige, puisque la Chine a besoin aussi de s'afficher en partenaire crédible et en partenaire international qui s'affiche sur ce plan-là. Et la conquête de l'espace a toujours eu cette dimension de prestige qui permet d'atteindre ce statut. Il y a aussi une quête du statut qui est très importante dans cette course. Ensuite, on verra effectivement ce qui se développe et on voit que Artemis a déjà un peu de retard aussi, mais bon, on verra. Puis il y a aussi tellement de contingences nationales, notamment aux États-Unis. On peut y avoir aussi des gouvernements qui décident de stopper tel ou tel programme, puisque on se souvient que le président Barack Obama voulait arrêter l'ensemble du programme de retour sur la Lune et sur Mars. Bon, ça avait fait tellement de bruit qu'il est revenu sur ses déclarations. Mais voilà, ça peut être à certains moments accéléré, ralenti aussi par les prises de position politiques, parce que l'espace stratégique est ultra politisé aussi.
Très bien, merci. Alors, votre question maintenant.
Oui, bonsoir. Le développement était particulièrement intéressant, mais en dehors des financements, on va arrêter d'en parler, c'est un peu les ratios qui comptent, parce que c'est toujours le financement par l'armée, Boeing et les autres. Si vous êtes capable de me donner le budget d'assaut côté militaire, vous êtes très forte, même vous. Donc bon. En revanche, on voit bien qu'il y a un parallèle, vous l'avez presque décrit, complètement dans le process, qui était le lancement de la guerre des étoiles, tout le monde a rigolé, et on a eu pas les Big Five, mais l'ensemble des grands, et après on essayait de se partager le pouvoir et de les réguler. C'est à peu près un peu ce que vous avez décrit en conclusion, où il y avait besoin d'une régulation importante. Et je pense que là, on voit aussi une logique où notre Occident, ok, on a les États-Unis d'abord, on suit, on fait des choses. Probablement, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, c'est le reuse, hein, qui est quand même un des éléments de SpaceX, qui est quand même, à mon avis, un des débats avec la rentabilité possible d'Ariane 6, qui, elle, ne l'est pas. Mais là, je ne milite pas. Mais je pense qu'on voit arriver le monde qui se découpe, comme globalement, parce qu'on voit bien que la Chine va quand même avoir un poids important, avec des accords ou pas avec les Russes, mais dans tous les cas, et c'est une logique de financement, c'est pas la peine de chercher à estimer, parce que de toute façon, on ne saura pas. Mais ils mettent un poids important, parce qu'ils veulent être une force, et c'est en fait, tout le process, c'est d'abord, très commercial marketing, hein, c'est comment je suis assez puissant, et je représente un poids extrêmement important dans le domaine que je veux couvrir, hein, et c'est ce qu'a fait réellement Microsoft et tous les autres, hein, Google et compagnie. Et quand ils sont assez puissants, et dans le militaire ou dans le, allez, on va dire le spatial, qui est un multi-usage, hein, à la fois privé et militaire et public, mais on voit qu'on arrive à ça. Et SpaceX a clairement fait une espèce de coup d'État spatial en déposant ses milliers, parce que c'est des milliers à lui seul, il doit bien représenter 30% de ce que vous avez demandé. Et quelque part, la preuve, il a eu les logiques militaires, mais enfin bon, là, on s'est un peu amusé. Vous avez raison de dire que ça a été changé, il y a eu des interventions, mais en réalité, il continue, et c'est quand même en partie ce civil qui a été abreuvé par les dépenses militaires américaines, hein, à 90% de sa recherche. Donc, je pense que c'est un peu important. Et on voit la différence avec les États qui en sont en train de faire sécession, la capacité d'arriver. Bon, l'infiniment petit dans le IT, enfin tout au moins dans les puces, existe, mais ils savent les faire déjà, en partie. Ils ne sont peut-être pas à 2 nanomètres, mais bon, ils vont y arriver.
Merci. Amiral Zimmermann, là-bas.
J'ai une question pour vous, capitaine. On a aujourd'hui, dans le monde occidental, on a les États-Unis, avec une espèce, pas de coordination, mais enfin une gouvernance différente entre le New Space et le spatial étatique, militaire, etc. J'en veux pour preuve le dernier exercice américain qui a eu lieu en mars-avril sur cette espèce de réponse un acte, une guerre dans l'espace, quoi, globalement, hein, l'évacuement de satellites, la désorbitation, etc. etc. En France, a-t-on aujourd'hui, en matière de gouvernance, quelque chose qui ressemble à cela, qui va coordonner le New Space et le spatial étatique? Je pense à Arianespace, mais je pense aussi aux aspects militaires de l'espace.
Alors normalement, c'est le rôle du CNES. Maintenant, ça a été dévolu au CNES de faire le lien, finalement, entre les besoins nombreux et les propositions qui sont faites par les acteurs du New Space. Donc il est le coordinateur de cela, sachant que maintenant, le CNES a une triple tutelle, qui est celle toujours du ministère de la Recherche, hein, qui l'était déjà, du ministère des Armées et du ministère des Finances de Bercy. Donc maintenant, il y a aussi la DGE, la Direction Générale des Entreprises, qui chapeaute une partie du plan dont j'ai mentionné tout à l'heure, le volet spatial de France 2030. Et le CNES a vraiment un rôle de mise en relation et de conformité, on va dire, des besoins exprimés avec les idées qui pourraient être faites dans le milieu, on va dire, des start-up, puisque il faut pouvoir distinguer dans l'ensemble de ces projets énoncés par les start-up les priorités, la faisabilité et ensuite redistribuer le budget. Donc là, par exemple, dans ce volet de Spatial France 2030, a été mis l'accent sur tout un pan des micro et mini-lanceurs, le plan des constellations également et des services en orbite. Donc le fait de pouvoir aller faire de la maintenance en orbite. Donc on a, voilà, cet effet de structuration des projets, de cohérence, même s'il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de débats sur la gouvernance du spatial en France, le fait qu'on a eu, du moins dans le spatial militaire, une réorganisation avec la création du commandement de l'espace et le fait qu'on le déplace de Paris à Toulouse pour pouvoir le mettre vraiment au plus proche de l'écosystème spatial français, autant industriel que aussi de l'agence spatiale qui est présente à Toulouse, donc le CNES. Donc dans cet effort de réorganisation. Mais aujourd'hui, on parle aussi de réorganiser un peu la gouvernance globale en créant un Conseil national de l'espace qui réunirait... Alors pour l'instant, voilà, c'est poussé par quelques personnes, dont des parlementaires, de pouvoir vraiment avoir un organisme qui réunit l'ensemble des acteurs français, parce que moi, je ne suis pas dans le cœur du système, mais parce qu'il y aurait encore un manque de cohérence d'ensemble. Donc, il y a cette volonté. On a parlé à l'époque de secrétariat général à l'espace, comme on a le secrétariat général à la mer. Et maintenant, on parle de Conseil national de l'espace. Donc, il y a aujourd'hui une véritable réflexion sur cette gouvernance et cette orientation pour vraiment avoir une vision, une stratégie, une cohérence d'ensemble.
monsieur.
Oui, j'ai plusieurs questions élémentaires. Quelle est la durée de vie d'un satellite? Qu'est-ce qu'il devient en fin de vie? Et est-ce qu'il y a des satellites qui ont la capacité de brouiller d'autres satellites ou de nuire à leur fonctionnement?
Là, j'ai juste une anecdote, tu aurais pu la donner aussi, mais ce qui compte pour la durée de vie d'un satellite, c'est la précision du lancement. Et vous savez que les technologies françaises Ariane 5 sont finalement issues aussi de la capacité de notre dissuasion nucléaire à être ultra, ultra précise. Ce qui améliore, ce qui fait qu'on a une réputation d'être meilleur que les autres pour être capable de placer un satellite exactement pile à la bonne hauteur. Et par exemple, le James Webb, qui était un programme, je ne sais pas combien de milliards, c'était un satellite qui coûtait vraiment, vraiment, je crois, le plus cher qui a jamais été lancé. Le fait qu'il ait été placé exactement, idéalement, à l'endroit qui était prévu, ça a augmenté sa durée de vie, je crois que c'est 2 ou 3 ans, parce que logiquement, le satellite doit descendre tout, tout doucement, mais le fait de le placer exactement comme il faut, ça a prolongé sa durée de vie. Donc un satellite a certainement plus de 10 ans, je ne connais pas la durée de vie moyenne, mais c'est vrai qu'en fonction du nombre de la quantité de carburant qu'il a pour se remettre en orbite et de la précision initiale du lancement, bah ça va varier de plusieurs années, finalement. Et après, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils restent en orbite? Ils descendent tellement doucement, quand ils n'ont pas de système de désorbitation, ils descendent tellement doucement qu'ils vont polluer l'espace pendant des années et des années. Et c'est pour ça qu'une forte proportion des satellites de grande taille qui ont été lancés depuis dans les 30 dernières années, 40 dernières années, sont encore là et continuent à polluer et continuent à occuper une place jusqu'à ce qu'ils tombent dans l'atmosphère où ils se désintègrent, sauf que tu restes des petits morceaux qui... Parfois, ça tombe sur le sol, mais la Terre est quand même recouverte d'eau majoritairement, donc ça tombe pas bien, ça tombe bien.
Après, ça dépend aussi de la taille des satellites et de l'altitude, finalement, comme ça a été rappelé, où on l'envoie. On a des nanosatellites qui sont envoyés à 200 ou 300 km d'altitude, donc ils vont retomber relativement rapidement liés à l'attractivité, à la gravité de la Terre. Et après, effectivement, les satellites en géostationnaire, d'ailleurs, ils peuvent redescendre, mais habituellement, on ne les redescend pas, on les monte encore plus loin. Les satellites géostationnaires, c'est 36 000, et on va les placer à 40 000. Donc on appelle l'orbite cimetière, donc plutôt, ou l'orbite poubelle au choix. Et voilà, on va les mettre à 40 000, comme ça on est sûr qu'on ne va pas les revoir tout de suite. Donc voilà, ça dépend aussi de l'utilité. Vous pouvez envoyer maintenant des satellites qui font la taille d'un gros téléphone portable et vous allez les envoyer très bas dans l'atmosphère et vont retomber dans les 2 heures. Donc c'est vraiment très physique comme aussi explication. Quoi. Voilà. Mécanique, céleste et physique. Moi, il y avait une deuxième question sur l'écoute.
Les uns vers les autres. Mais en fait, c'est une question de puissance embarquée. Et la puissance nécessaire pour pouvoir brouiller, par exemple, ou éclairer ou détruire au laser, elle est tellement importante que finalement, c'est compliqué. Donc il vaut mieux avoir un gros laser puissant depuis le sol, ce que j'ai compris en tout cas en essayant de regarder. Mm-hmm. Les gros lasers puissants depuis le sol ont une meilleure capacité qu'un laser embarqué satellite, même s'ils sont proches géographiquement l'un de l'autre, finalement c'est moins efficace en termes de capacité de destruction que si on tire vraiment du sol. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine.
Pas de destruction, simplement de nuisance.
Oui, de nuire. Mm-hmm. Ils peuvent certainement se brouiller, mais ça c'est finalement de la guerre électronique, de la manière qu'on va brouiller des communications. On peut empêcher une communication qui va se faire entre un satellite et sa base. Ça c'est des choses où lui envoyer des ordres. Le jeune Britannique qui avait envoyé des ordres parce que tout le monde se moquait de son père qui était écolo, et il avait réussi à changer l'orbite des satellites en piratant, je ne sais plus quel service britannique, ça c'était dans les fin des années 90, parce que j'étais à l'école, on s'en souvient encore. Donc il y a des cas dans lesquels, oui, si on arrive à pirater le réseau et donner des ordres contraires aux satellites pour qu'ils ne visent pas le bon endroit ou qu'ils tombent, on peut nuire. Mais ça, on rentre finalement sur le cyber et c'est des menaces cyber assez classiques.
Le brouillage satellite, c'est vraiment l'arme du pauvre, entre guillemets, qui est utilisée de manière très régulière sur les théâtres d'opération, notamment, enfin, si on parle vraiment d'actes intentionnels et offensifs. Et après, tout à l'heure, je vous parlais aussi de l'Union internationale des télécoms, quand il y a l'obligation de réserver une position orbitale et une fréquence, parce qu'effectivement, il y a important et complètement indispensable de faire cette coordination orbite fréquence, parce que si vous mettez un satellite à la même orbite et à la même fréquence ou proche, ils vont se brouiller naturellement. Donc il y aura des interférences entre les satellites. Alors ensuite, il peut y avoir des brouillages où l'État va dire « Oh bah désolé, je me suis trompé de fréquence, j'ai mis un peu trop fort, vous inquiétez pas, c'était pas intentionnel, mais bon. » Là, l'intentionnalité aussi dans l'espace est difficile à identifier. C'est aussi une des données importantes dans le spatial, c'est que vous pouvez avoir d'un coup une perte de communication avec votre satellite ou un brouillage de votre satellite. Et ensuite, il va falloir essayer de déterminer qui a pu faire ça et est-ce que c'est intentionnel ou pas. Et ça, c'est vraiment toute la difficulté aussi qu'il y a à le faire dans l'espace.
Monsieur.
Oui, après 2 ans de guerre en Ukraine, quels sont les retours d'expérience sur la capacité réelle du spatial militaire russe et sur leur façon de s'en servir? Et globalement, quel est le retour d'expérience utile pour notre force spatiale des 2 années qui viennent de s'écouler?
Bon, ça on peut répondre tous les deux, mais oui. Il est, en termes de capacité de renseignement, en tout cas, il est relativement décevant. Moi, là où ça a été vraiment décevant, tant mieux si ça marche mal pour les Russes, attention. Fin 2022, l'incapacité russe à identifier qu'il allait avoir une contre-offensive avec une accumulation d'une masse de manœuvre qui a permis de libérer 20 000 km² en 3 mois quand même. L'année 2023, il y a 1 000 km² qui ont changé de main. Sur les 3 derniers mois de septembre à novembre 2022, c'est 20 000 km² qui ont été libérés. Et les Russes ont été complètement surpris. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la possibilité, sur un théâtre d'opération à 20 km de leur ligne, de voir qu'il y avait des centaines de chars, des milliers de camions qui s'accumulaient avec des munitions. Donc, en termes d'observation, de renseignement, en tout cas, ils n'ont pas vu. En termes de ciblage, et on pense par exemple à la guerre électronique, cibler, identifier les radars ukrainiens qui sont en fonctionnement, l'incapacité russe à mettre à mal la défense aérienne ukrainienne dans les premières heures de la guerre, ce qu'on attendait de tout État doté d'une panoplie d'armes aussi importante, il était inexistant. Donc le positionnement de leur système, quand on regardait la précision des missiles, les missiles qui, bon, j'y ai été, il y a la ligne ferroviaire et le missile, il tire 10 mètres à gauche et 50 mètres à droite. Et donc ils ont beau tirer 3 missiles sur le pont, le pont est toujours là. Est-ce que c'est leur système de géolocalisation qui est moins précis? Est-ce que c'est leurs missiles qui sont moins efficaces à la fin, en phase terminale? Ça, je ne sais pas le définir. Mais finalement, dans tous les domaines où on attendait les Russes à un certain niveau, ben, ils n'y étaient pas. Je ne vais pas parler des armes hypersoniques, etc., où ce n'était pas le cas non plus, mais globalement, on n'a pas été épaté par leur capacité dans le domaine spatial et encore moins dans le domaine des communications spatiales, puisque finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'Ukraine utilise Starlink. Starlink, normalement, ça s'arrête à la frontière côté ukrainien. Mais comme à 10, 20, 50 km près, ben, en fait, qu'est-ce qu'ils font les Russes en face? Ils utilisent Starlink aussi. C'est bien qu'ils ont un manque de communication spatiale aussi. Tout comme nous, on aurait ce manque si on n'avait que Syracuse face à l'Ukraine. Donc dans les communications, dans le renseignement, dans la guerre électronique, positionnement, il n'y a pas un domaine dans lequel ils ont resplendi. De mon point de vue, après.
C'est véritablement l'impression que ça a donné. Mais moi, pour répondre à votre question, il y a aussi le rôle du spatial dans cette guerre. Et ce que j'ai quand même du mal à voir, c'est est-ce qu'on est dans le perfectionnement de l'existence, c'est-à-dire il y avait déjà des satellites, on savait d'observation, de détection, de tout ce que l'on veut. Des satellites qui permettent de guider les missiles au sol, etc. Est-ce qu'on est véritablement dans le perfectionnement de l'existant ou est-ce qu'on est dans une autre dimension par rapport à ce que l'on connaissait avant la guerre? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a sous-estimées, notamment le rôle des drones, mais ce n'est pas forcément du satellite. Ah, si, quand même, c'est les drones. Oui. Voilà. Bah, c'est GPS, quand un
Un drone sans pilote, piloté par de l'intelligence artificielle, va à 1200 km. Il est guidé comment ?
Bah, a priori, c'est oui. Inertiel et GPS.
Oui. Oui.
Donc, c'est quand même GPS. Voilà. Oui, voilà. GPS. Donc,
par navigation.
Ou inertiel avec reconnaissance d'image et des points de ce qu'on appelle des amers. Donc, voilà. Il y a des points de reconnaissance.
Alors, est-ce que cette guerre... je te pose quand même la question, tu es spécialiste, c'est est-ce que cette guerre est un véritable game changer des pratiques hantées, ou bien est-ce qu'on est dans la poursuite, le perfectionnement de choses qu'on savait déjà faire avant, mais dont on en a peut-être sous-estimé l'importance et la capacité, un peu comme on sous-estimait l'importance de l'aviation en 1914.
Pour moi,
Foch disait que ça n'avait aucune utilité, par exemple. Voilà.
Visionnaire.
Ouais, c'est une des choses sur lesquelles il s'est bien planté. Mais il le disait en 1908, je crois. Donc après, il a bien compris. Évidemment.
Non, mais il n'y a pas de révolution du spatial en Ukraine. Mais par contre, l'intégration des moyens civils type SpaceX pour la massification de la communication, là, c'est vraiment un game changer. Et la capacité ukrainienne à résister et à coordonner les actions, et à être bon, à être efficace, y compris en première ligne, avec des endroits dans lesquels il n'y a plus de téléphone, il n'y a rien qui passe, mais leur application, ça leur permet de dire que là, il y a un russe, et l'application toute seule va identifier quelle est la meilleure pièce d'artillerie pour la détruire. Alors, c'est un Uber de l'artillerie. Et bien, s'ils n'avaient pas le téléphone, s'ils n'avaient pas le satellite pour le faire, ça ne va pas. Et au début de la guerre, j'étais en contact avec des combattants. Quand il y avait un headquarter, un chef, qui avait un téléphone satellite, eh bien là, il était triangulé, il avait une demi-heure d'espérance de vie s'il reste au même endroit. Donc les communications classiques par satellite, les téléphones satellites qu'on utilise nous, sont inexploitables en Ukraine. Mais Starlink a complètement révolutionné la façon de faire la guerre. Mais pour le reste, par contre, moi, je n'ai rien vu de particulièrement innovant ou qui montre que c'est un game changer.
Ce qui est noté parfois par certains analystes dans l'utilisation du spatial par les Russes, par la Russie, et c'est peut-être pas valable que pour le spatial, c'est aussi le manque de coordination des différents milieux. Ouais. Donc effectivement, déjà, dès le départ, effectivement, ils ont des capacités spatiales, ils ont à peu près tout le spectre des capacités spatiales, mais les capacités sont fragiles, les performances sont contestées ou contestables, c'est difficile de savoir exactement ce qui est du ressort de ils ont pas, ils savent l'utiliser, ils savent pas l'utiliser, ou alors c'est pas performant. Et ensuite, il y a la coordination entre le fantassin finalement au sol, avec les informations satellites, avec les avions, etc. Enfin, moi, ce que j'en ai lu aussi, c'est la coordination du champ de bataille aussi, qui a été très difficile et dont ils n'avaient pas véritablement l'expérience, contrairement à l'Ukraine qui participait déjà à une logique un peu otanienne d'opération et d'interopérabilité, que cette expérience n'a pas été acquise ou n'a pas été développée dans la stratégie russe, militaire russe.
Et le C2.
Voilà, c'est ouais. Ça.
Commande un contrôle.
Votre analyse sur la cécité russe est intéressante. J'imagine un biais sur certains domaines, comme par exemple la défense antiaérienne. Parce qu'en général, nos stratégies, c'est on fait des outils pour détecter les autres et pas forcément les nôtres. Et quand on sait qu'au début, ils avaient essentiellement du S-300 et quelques, pas beaucoup, S-400, est-ce que ça n'a pas eu un gros biais sur les problèmes, entre guillemets, réciproques? Mais
non, parce qu'en réalité, dès le début, par exemple, les Russes utilisent des missiles qui s'appellent le KH-31P, qui est censé remonter jusqu'à l'origine d'un signal. Jusqu'en avril, en fait, les Russes ont arrêté de passer la ligne de front en avril 2022. En avril 2022, la défense aérienne ukrainienne était 100% composée de matériel ukrainien. On n'avait pas encore fourni la moindre pièce d'artillerie, la moindre défense aérienne lourde. C'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. Et donc, des Stingers tirés depuis l'épaule, mais ce n'est pas ça qui les empêche. Donc les Russes n'avaient réellement pas les moyens, en termes de destruction, ce qu'on appelle les missions SEAD, le SID, ils n'avaient pas la capacité, par les moyens qu'ils avaient, de simplement venir à bout de l'Ukraine. Même avant qu'elle soit aidée, ils n'avaient pas les moyens. Alors, elle se serait épuisée plus vite par le manque de missiles, etc. Mais, et alors après, si on regarde l'inefficacité dramatique de la défense aérienne russe, alors ça, on peut écrire des romans dessus. J'écrivais dans Erre Cosmos que c'était la meilleure du monde. Je me flagelle à chaque fois que je relis mes anciens papiers, parce que c'est dramatique. Ils n'arrêtent rien.
Pendant longtemps, on a dit que les S-400 étaient encore mieux que les S-300.
Mais oui. Mais oui. Et aujourd'hui, on voit que des drones kamikazes à 10 000 dollars, ce qu'on achète sur des sites en Chine, sont capables de frapper le siège de la flotte de la mer Noire, défendu par 50 bulles de protection qui se superposent. Heureusement qu'on n'est pas aussi mauvais, parce que ça fait peur, quoi.
Bon, une simple remarque concernant la Russie. Bon, ce qu'on lit dans les revues spécialisées, c'est que ce sont de brillants métallurgistes, de très bons mécaniciens, de très bons pyrotechniciens, mais on ne lit pas que ce sont de grands électroniciens.
Bah oui, électroniciens. Oui.
Ce ne sont pas de grands électroniciens. Alors, histoire de nous faire sourire une seconde, pour rebondir, mon général, sur ce que vous disiez concernant Foch. Alors, effectivement, Foch était à l'époque le patron de l'école de guerre, et avec son état-major, il va faire un tour sur le plateau de Nancy-Melzéville pour voir une démonstration d'un avion militaire. Alors, au retour, il est dans un beau compartiment, et puis il est avec tous ces messieurs, on discute. Alors, il dit ceci, « Tout ça, c'est du sport. Pour l'armée, l'avion, c'est zéro. »
Bon. Voilà, il s'est bien trompé.
Oui. Alors, je dirais, si je peux encore parler une vingtaine de secondes, absolument à l'inverse, le général Pétain, donc Tutrou fraîchement nommé au début des premiers mois de la guerre de 14, fait confiance au colonel Estienne, qui est le patron de son artillerie divisionnaire. Et Estienne a avec lui deux petites trapanelles qui permettent l'observation des tirs d'artillerie. Voilà.
Merci.
Merci.
Alors, y a-t-il encore des questions ? Ah, encore une ? Allez, allez.
Oui, monsieur Tittelmann, tout à l'heure, vous nous disiez que, à propos de l'évaluation de la situation tactique sur le terrain, au dernier kilomètre pour le combattant sur le terrain, la France aujourd'hui, du fait de sa volonté d'avoir des moyens souverains, n'est pas en capacité d'obtenir ce que les Ukrainiens obtiennent avec le spatial SpaceX ou Starlink. Voilà. Quand on s'intéresse en béotien au projet de l'armée française, notamment le projet Scorpion, le web de combat, où on voit des infographies avec des satellites qui distribuent de l'information et des données jusqu'aux combattants sur le terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Et donc, ma question, c'est quelles sont les étapes prévues pour que cette espèce de Graal du web de combat soit opérationnel chez nous ?
Non, mais il n'y a rien.
Il n'y a rien ?
Enfin, il n'y a aucun moment où on accepte d'être non souverain. Donc, partant du principe qu'on s'interdit d'être non souverain, ce qui est certainement une bonne chose, hein, dans certains domaines, ben on s'interdit d'avoir la bande passante qu'ont les Ukrainiens jusqu'au dernier kilomètre. Et c'est valable dans tous les domaines. Hein, je veux dire, notre objectif, c'est d'avoir 7000 drones en 2027. Les Ukrainiens, ils en consomment 10 000 par jour. Donc, il y a un moment, il faut voir qu'on n'est pas sur les mêmes. On n'a pas compris ce que c'est que la guerre de haute intensité. Enfin, on l'a compris. Ah, mais c'est une mauvaise raison, je sais, mais...
C'est un horizon quand même. Est-ce que les 6 milliards qui ont été budgétés vont servir à ça ou...
Mais on peut pas souverainement... Il faudrait qu'une société privée comme OneWeb pour les Britanniques ou SpaceX pour les Américains décide de lancer 40 000 satellites de communication pour qu'on soit souverain avec un acteur commercial national. J'ai pas entendu parler du moindre acteur national qui se lance dans un projet pareil. Donc si on n'a pas un acteur national commercial privé qu'il le fait, c'est pas avec 6 milliards répartis sur 6 ans, même si on mettait 100% du budget dedans, c'est largement insuffisant. Et c'est encore une fois, winner take all, c'est le premier qui est parti, qui prend toutes les parts de marché, et ils sont irrattrapables derrière.
Si je peux ajouter un point, il y a, juste, c'est pas pour prendre la défense de quiconque, mais il y a le projet européen IRIS², alors c'est l'ambition de faire le pendant du Starlink par l'Union européenne. Donc pour l'instant, c'est toujours en cours de négociation à la Commission européenne. Donc c'est un consortium avec des acteurs, pas seulement français, mais européens, pour construire cette constellation de connectivité souveraine. Mais voilà, pour l'instant, on n'en est que aux discussions. La full capacity est prévue, on va dire, en 2030. Il n'y a pas encore un satellite qui a été lancé en orbite, quoique dans les projets éventuels, ce qui est sur le papier, c'est d'utiliser déjà certains satellites de OneWeb, donc qui pourraient servir à la constellation. Donc s'appuyer quand même sur du commercial dans le cadre de ce projet. Et dans les quand même dans les réflexions qui sont faites, qui sont menées à la DGA, il y a quand même une prise de conscience peut-être de l'intérêt des services commerciaux et de voir de quelle manière ils pourraient être intégrés finalement dans le système satellitaire souverain entre guillemets. Il y a quand même plusieurs cœurs aujourd'hui qui sont énoncés. Il y a le cœur patrimonial, le cœur souverain. On va quand même retrouver le satellite de télécommunication Syracuse, le satellite électromagnétique Cérès et puis les satellites d'observation CSO. Il y a ça, c'est le cœur souverain. Le cœur étendu, c'est les satellites qui sont faits en coopération et aussi ce qu'on appelle les opérateurs de confiance. Donc, c'est des services commerciaux à qui on fait confiance pour nous donner de la donnée. Puis après, il y a le troisième cercle des compléments capacitaires. Donc, ça, c'est de l'achat de services, soit par chez des commerciaux qui ne sont pas européens, par exemple. Donc, voilà, il y a cette dynamique qui est faite. Et le fait d'utiliser des satellites commerciaux, je pense que ce n'est pas complètement rejeté aujourd'hui parce que la France ne peut pas tous payer. Et justement, le projet IRIS², ce satellite de connectivité, ça veut bien dire qu'on ne peut pas le faire. La France ne peut pas le faire tout seul. Donc, c'est poussé au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne. Donc, je ne dis pas que ça verra le jour demain et qu'on va l'utiliser de manière opérationnelle sur les théâtres après-demain. Mais il y a quand même ces projets, il y a une prise de conscience qui est là. Après, il faudra voir dans la réalité ce que ça donne.
Je suis persuadé que si on est en guerre avec les Russes dans 6 mois, on utilisera Starlink et on sera très content avec. Hein. Mais alors, par contre, juste pour le Scorpion, quand on voit Scorpion, effectivement, la connectivité, c'est souvent des avions. En fait, c'est des bulles tactiques de cloud de combat. Alors ça, c'est tout à fait développé, c'est en train d'être mis en œuvre. Ça ne repose pas uniquement sur le satellite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connectivité satellite pour lier deux éléments. Un avion peut faire relais de communication. Et donc, vous avez des avions qui sont dédiés à ces nœuds de communication. Les AWACS, etc., les A330 MRTT, il y a des options dans lesquelles on met des baies spécialement dédiées pour créer la bulle tactique sans passer forcément par un satellite.
On parle aussi de pseudo-satellites, oui, donc dans l'espace aérien supérieur, qui créent des bulles de connectivité également. Ouais. Donc,
c'est les fameux apps dont je parlais tout à l'heure.
Il y a différentes solutions aussi de créer de la connectivité, on va dire.
Moi, je voudrais simplement rajouter un petit truc. Moi, je me souviens que le général Bosser disait que quand on cherche la souveraineté, la souveraineté absolument, l'étatique n'avait pas l'agilité technologique du privé. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand je suis entré dans l'armée, on a adopté le système RITA, que tout le monde a connu. Ça m'a suivi pendant 40 ans, le RITA. Et pendant ce temps-là, on sort un iPhone tous les 9 mois. Et donc, on est à l'iPhone 15, 17, etc. Il dit on n'est pas capable de suivre le rythme technologique. Et si à un moment, on ne fait pas confiance au privé pour nous connecter, comme avec Starlink, comme avec les applications, par exemple, d'artillerie dont on parle, c'est le Uber de l'artillerie où les gars, petit à petit, on se disqualifie. Je veux dire, à un moment, il va y avoir des arbitrages qui devront être faits, à mon sens, parce qu'on ne peut pas rester à l'artillerie de grand-papa, les systèmes de communication. Alors, on fait des trucs très bien, mais le progrès technologique, le militaire a longtemps entraîné le privé, et aujourd'hui, c'est le privé qui entraîne le militaire sur le plan technologique. Tellement ça va vite. Et pour des raisons financières, on ne change pas de système RITA ou son successeur tous les 6 mois, alors que les iPhones, ils sont obsolètes tous les 9 mois. Voilà, donc, et ça, c'est un véritable problème. Et ça, c'est un problème financier, un problème auquel sont confrontées nos armées au quotidien. Et on voit bien qu'il y a quand même une forme de privatisation, j'allais dire, en Ukraine, de la guerre, avec Musk, et puis avec Starlink, avec un certain nombre d'applications qui viennent directement de la population, du privé, etc. Donc il faut quand même qu'on réfléchisse à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de bien voir qu'ils en consomment 10 000 des drones par jour. Si on en fait 7 000, c'est 7 000 en 2027. Voyez où on en est. Donc c'est pas génial. Voilà. Ce que je voulais rajouter.
L'IA, par exemple, vous avez parlé, mais il y a quand même encore beaucoup d'autres choses qui sont derrière, pour la précision, pour Voilà.
Ok, alors une dernière remarque, et puis voilà.
C'est une remarque. J'aime beaucoup ce que vous avez dit concernant Rita. J'aurais deux remarques. Alors la première, c'est que, bon, comme vous l'avez très bien montré, bon, on ne peut pas se payer le remplacement d'une énorme quantité de matériel qui vaut un prix faramineux, alors que, bon, dans le cas des iPhones, c'est au niveau du plan pas moyen qui s'achète un nouvel appareil. Bon. Alors, vous posez indirectement la question du renchérissement phénoménal des biens, ce qu'on appelle le bien d'armement. Hein, je me souviens, quand j'étais encore active, on avait essayé de créer un indice du coût des matériels d'armement. Vraiment, c'était tellement disparate qu'on y avait renoncé. Et alors, je me souviens avoir lu une étude là-dessus de je sais plus quel contrôleur général. Ce n'était pas M. Menu, qui est maintenant décédé. Alors, M. Menu, je crois bien que c'est lui indiqué que, à partir du moment où l'électronique était entrée en force dans nos systèmes, alors tant dans les systèmes que dans les systèmes de systèmes, les coûts avaient grimpé en flèche.
Ben, voilà. Donc, bien sûr. Mais les coûts peuvent être diminués à partir du moment où on fait confiance, je dirais, à l'industrie privée. C'est-à-dire qu'on utilise des biens de grande consommation qui coûtent infiniment moins cher que des biens très confidentiels qu'on construit à quelques centaines d'exemplaires. Voilà.
Et sur ça, là, typiquement sur les drones, il y a des projets pour prendre des drones du civil en grande quantité et apporter des modifications pas chères, rapides, pour avoir accès à la masse, à la capacité industrielle et avec des technos qui soient plus intéressantes, qui peuvent être souveraines du coup. On change une puce pour être souverain, typiquement, sur un drone.
Vous voulez rajouter quelque chose? Non.
Non, pas du tout.
Pas
merci.
Du tout. Voilà. Alors, on s'est tout dit?
Alors, pas de regret.
Alors, je veux simplement, en conclusion, donc je remercie Béatrice Hainaut de l'IRSEM, avec laquelle nous avons une excellente coopération.
Merci à vous pour l'invitation.
Les conférenciers très régulièrement, merci infiniment. Et puis Xavier, que je vais revoir prochainement.
Ouais, demain soir sur LCI, samedi soir. LCI, voilà.
C'est la dernière conférence de cette année. Nous recommencerons les conférences vraisemblablement début octobre, je crois, hein, c'est d'après les dates. Et on changera de registre, puisque début octobre, je crois qu'il est prévu que l'on fasse un point de situation sur les élections européennes. Voilà, dans les élections européennes. Donc ça sera beaucoup plus politique. Et après, en décembre, vraisemblablement, sur les élections américaines, quand on saura qui est le président le 4 novembre. Donc, et là, ça sera beaucoup plus notre partenaire Sinopia qui sera à la manœuvre, vraisemblablement, pour ces partis politiques. Sinopia, dont je remercie la présence, qui est notre partenaire pour toutes ces conférences. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis de bonnes vacances si vous partez, et puis j'espère vous revoir à la rentrée. Voilà, merci, au revoir. Recording stopped.